Fortin et Pascal Cévé. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Émission d'en jase, ton émission du midi sur les ondes de Boulevard 102.1 avec Jeff Fortin, Pascal Cévé. À chaque jour, aux alentours de midi 5, Antonine Iaccarini avec son excellent caucus où on fait le tour de la politique. Bref, tu veux savoir ce qui se passe à Québec, tu veux savoir ce qui se passe en politique provinciale, fédérale, ton rendez-vous du midi, c'est à Boulevard 102.1 à l'émission On en jase. 418-971-1021 pour nous joindre par texto. Dans quelques instants, on a le député de Lévis et candidat à la chefferie de la CAQ, Bernard Drainville, en entrevue. Donc, si jamais vous voulez poser vos questions, vous n'hésitez pas. 418-971-1021. BLVD.fm, évidemment, les meilleurs moments se retrouvent là. L'entrevue avec Bernard Drainville va s'y retrouver. Web radio aussi pour nous écouter. L'application Boulevard 102.1 sur App Store et Google Play Store. À télécharger pour nous écouter partout où tu vas au Québec. Également, haut-parleur intelligent, vous dites écoutez BLVD 102.1. J'ai fait ça samedi et dimanche matin, le Rock and Chill avec Audrey Pinchot. Wow, quelle belle façon de se réveiller la fin de semaine. Twitch.tv/BLVD. Barre en bas, FM pour venir nous voir en studio. Venez voir justement Pascal Cévé, Antonine Iaccarini et Bernard Drainville. Et je termine avec la page YouTube. Allez vous abonner à la page YouTube Boulevard 102.1. Notre entrevue qu'on va faire va se retrouver notamment sur notre page YouTube. Nos podcasts aussi se retrouvent là. On parle un peu plus tard dans l'émission justement du podcast hors série sur la prévention du suicide que j'ai eu le bonheur d'enregistrer. Avec Éric Légaré, porte-parole de l'Association de prévention du suicide du Québec. Ça sera en ondes ce soir, 19h. Pascal Cévé, passez une belle fin de semaine.
Très belle fin de semaine. Moi, je suis d'une de celles qui apprécient les joies de l'hiver. Puis je trouvais qu'en fin de semaine, c'en était une belle.
Oh, oui.
Un super week-end pour justement aller dehors sans avoir trop froid, là, à moins que tu sois mal habillé. Mais sinon, on commence la semaine sur les chapeaux de roue. Je ne sais
ben
pas pour
oui.
toi, mais avoir le ministre Bernard Drainville, candidat à la chefferie du Parti libéral, en personne, en chair et en os. Mm-hmm. Ça me ramène à de vieilles années.
Yes! Antonine Iaccarini, ça va bien?
Très bien.
Good, passe un beau week-end toi aussi.
Oui, moi aussi, j'ai profité des joies de l'extérieur et je me suis pété la margoulette. Est-ce que vous êtes marboulette ou margoulette?
Margoulette.
Margoulette.
Ah, moi, je suis margoulette.
Oui, je suis allée faire du patin sur un étang.
Ah, pourquoi tu fais du sport extrême?
Regarde, tu vois, c'est pour ça que j'en fais pas. J'en fais pas de sport à cause de ça. Fait que j'ai des bleus partout, mais c'est vrai que j'ai bien profité. C'est
nice.
Effectivement une très belle fin de semaine, il faut le dire.
Il a fait son lancement de campagne officiellement hier dans un café de Lévis. Les députés de Lévis, ministre, ex-ministre de l'Environnement, parce que pendant la campagne à la chefferie, il ne peut plus être ministre. Et il est candidat à la chefferie de la Coalition Avenir Québec. On a le bonheur de retrouver Bernard Drainville dans nos studios. Monsieur Drainville, comment allez-vous?
Très bien, merci. Vous avez une très belle vue. C'est très agréable.
Auriez-vous voulu avoir des beaux studios comme ça quand vous faisiez de la radio?
Mais oui, j'aurais aimé ça voir dehors. On voyait pas dehors.
C'est l'avantage ici, honnêtement. Ouais, moi, je fais également le matin comme co-animateur. Quand le soleil se lève, c'est de toute beauté. On voit le soleil se lever. Satisfait de votre lancement hier?
Oui, très.
Oui.
Très, parce qu'il y avait d'abord, il y avait beaucoup de gens. Puis il y avait une très belle énergie. Et puis, le monde est pas mal pompé, là. Je pense qu'on va faire une belle campagne.
Ça vous fâche-tu que Christine Fréchette, votre adversaire, soit la candidate de l'establishment de la CAQ? Me semble ça doit être décourageant quand on veut être le chef d'un parti puis qu'on sait que les Martin Koskinen de ce monde sont contre vous?
Fâché, non. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Chacun fait ses choix. Et puis moi, je vais faire ma campagne. Hier, j'ai mis au jeu un certain nombre d'idées. Et puis, j'espère que le débat d'idées va se faire. En tout cas, moi, j'ai l'intention de le nourrir. Puis, je vais en amener des idées. J'ose croire que ce ne sera pas les sondages qui vont décider, que ça va être vraiment la valeur des idées. Puis aussi, juger qui peut le mieux porter ces idées-là et faire en sorte qu'elles se réalisent.
Parlant d'idées, quelque chose qui a beaucoup ressorti de votre lancement d'hier, c'est une espèce de virage à droite ou retour un peu vers l'ADQ. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire là, en termes de propositions, en termes de choses qu'on ferait différemment à la CAQ de Bernard Drainville versus celle de François Legault?
Bien, écoutez, là, sous les années de François, là, puis je veux juste dire, là, il s'est fait de très belles choses sous François Legault. Fait que je veux pas que les gens pensent que je jette le bébé avec l'eau du bain. il s'est fait de très belles choses, puis je vais rester attaché à cet homme-là, à l'occasion qu'il m'a donnée de revenir en politique. Fait qu'il ne faut pas que les gens voient ces idées-là que je mets de l'avant comme étant un rejet de François Legault. Maintenant, une course au leadership, c'est le moment de proposer des nouvelles idées, puis d'arriver avec des nouvelles approches, puis surtout de tirer les leçons du passé. Et une des choses qu'on a mal fait, c'est qu'on n'a pas réinventé l'État comme on s'était engagé à le faire. OK? On a embauché plus de 10 000 fonctionnaires de plus pendant qu'on était là, là. OK? 10 000. Plus de 10 000. Bon. Moi, honnêtement, quand j'ai vu ce chiffre-là, là, je suis un peu tombé en bas de ma chaise. Puis, bon, t'es membre d'un gouvernement, tu débats à l'intérieur, puis tu fais valoir tes points à l'intérieur de la famille. La course me permet de sortir publiquement, me donne un espace de liberté pour dire, franchement, là-dessus, on n'a pas fait la job.
Mais là, votre collègue au Conseil du Trésor a déposé un plan pour justement couper un peu. Est-ce que vous voulez aller plus loin que ce plan-là ou ce plan-là vous convient? Là?
Bien, je vous dirais, il faut au moins faire ça. Maintenant, est-ce qu'il faut aller plus loin? Il faut certainement l'envisager. Puis évidemment, la course va nous servir éventuellement à mettre des propositions de l'avant là-dessus. Mais c'est sûr que 2000 cette année, puis 2000 l'an prochain, je dirais pour moi, c'est un minimum. OK? Ceci dit, sur l'efficacité de l'État, ça, c'est une chose. Mais hier, je disais le privé. Ça a été longtemps tabou au Québec, le privé. Moi, je pense que si le système public n'est pas capable de donner le service pour lequel te payer, il faut être ouvert à un rôle accru du privé, notamment dans le domaine de la santé. Ça, je pense que c'est. Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont prêts à ça maintenant. Alors, je le répète, ma première option, c'est que le système public fasse le travail. Après tout, on a payé pour ça. Mais si tu n'es pas capable d'avoir le soin pour lequel te payer au public, mais je pense que ça devrait être le privé qui devrait le faire. Puis évidemment, c'est l'État qui paye. Ça, c'est important, là. C'est tu payes avec, si je peux me permettre, avec ta carte d'assurance maladie. Là.
Monsieur Drainville, vous avez tout un parcours. Vous avez également un genre de vie médiatique, une vie politique aussi dans votre rétroviseur. Il y en a qui trouvent qu'on ne comprend pas trop votre essence en ce moment là à la course à la chefferie. On essaie de savoir, bon, Bernard Drainville, en politique, c'est qui maintenant? Dont votre ancien co-animateur Éric Duhaime, qui est maintenant chef du Parti conservateur du Québec.
Ouais.
C'est quoi l'essence de Bernard Drainville?
Oui, bien là-bas, je note que ma candidature dérange Éric. Je trouve ça quand même. Je trouve qu'il passe beaucoup de temps à commenter.
Ben, vous êtes des anciens collègues, vous êtes colmatant en nombre, fait que vous continuez, mais en politique.
Ben, il y a peut-être un peu de ça, mais c'est quand même, je trouve ça quand même intéressant. Visiblement, ça le fatigue, parce qu'il parle beaucoup de moi. Maintenant, pour répondre à votre question, Pascal, la raison fondamentale pour laquelle je suis venu en politique, puis je sais qu'il y en a qui vont dire c'est donc bien qu'étonne. Mais c'est vrai, c'est par amour pour le Québec. OK? Moi, je suis un nationaliste. Je trouve qu'on a hérité de quelque chose de magnifique. Puis notre travail, notre responsabilité comme Québécois, c'est de le laisser à nos petits-enfants dans un état au moins aussi bon que celui dont on a hérité. Puis moi, hier, je l'ai dit, je veux que les petits-enfants de nos petits-enfants parlent encore le français. Bon. Alors, sur le français, sur les valeurs, j'ai jamais dévié d'un centimètre. Mais pour qu'on puisse continuer à être une société forte et francophone, ça prend une économie qui est forte. Ça, c'est hyper important, parce que si tu veux que tes jeunes restent ici au Québec puis aient une belle carrière, une belle vie professionnelle, il faut que tu aies une belle économie. Alors, sur l'économie, hier, j'ai dit, on a beaucoup investi dans les entreprises étrangères ces dernières années. Je pense qu'il faut se recentrer sur les entreprises d'ici, les entrepreneurs d'ici. Puis oui, en particulier les PME, mais pas juste les PME. On a des belles entreprises qui ont une certaine taille. Il faut continuer à les accompagner. Mais on devrait se concentrer sur nos jobs puis nos entreprises qui sont au Québec. Et continuer donc à renforcer l'économie puis à donner un bel avenir économique à nos jeunes pour qu'ils aient le goût de rester des Québécois puis continuer à construire le Québec.
Si on veut gagner en politique, M. Drainville, est-ce qu'il faut taire sa petite flamme de cœur? Ou encore, elle a simplement changé de couleur dans votre cas?
Bien, elle n'a jamais changé de couleur. J'étais un nationaliste au PQ, puis je suis un nationaliste à la CAQ, puis je serai toujours un nationaliste. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, je ne crois pas qu'un référendum, d'abord, il peut pas être gagnant. C'est pas compliqué. Le référendum, actuellement, il est perdant. T'as à peu près un Québécois sur trois qui sont prêts à voter pour l'indépendance. Alors, j'ai pas le goût qu'on se rembarque là-dedans pour une troisième fois. On a trop de défis importants dont on doit s'occuper. Et, deuxièmement, dans le contexte actuel, il faut s'unir. Il faut non seulement s'unir comme Québécois. Quand je parle du contexte, je parle de la guerre tarifaire que Trump nous a lancée. Non seulement il faut s'unir comme Québécois, mais oui, il faut s'unir avec les autres Canadiens. Bon, puis là, Drainville qui croit au Canada soudainement.
Ouais, comment ben, ça? C'est arrivé
ben,
comment,
oui,
ça?
Alors, ben, c'est arrivé qu'à un moment donné, tu tires les conclusions. On en parlait tout à l'heure avant d'entrer en studio. En 2014, qu'est-ce qui s'est passé? En 2014,
le PKP a levé le poing pour le pays.
Voilà. Et qui a gagné?
Les libéraux.
Merci. Alors, à un moment donné, quand le référendum ne réussit plus à aller chercher suffisamment d'appui, c'est pas les nationalistes qui gagnent. Mm-hmm. Alors, moi, j'ai tiré les leçons de ça. Et quand je suis venu à la CAQ, pour répondre à votre question, Pascal, quand je suis venu à la CAQ, je me suis dit, c'est le parti où je peux continuer à être nationaliste, mais où j'ai plus besoin de pousser pour un référendum dont la majorité ne veut pas. Et de cette manière-là, on a réussi à faire voter des lois sur la laïcité, des lois pour renforcer la langue. Puis oui, on a fait des avancements au niveau de l'économie, mais maintenant, il y a des choses qu'on a faites qui ont viré à l'eau de vaisselle.
Pour rappel, on s'entretient avec Bernard Drainville, candidat à la chefferie de la Coalition Avenir Québec et député de Lévis. Monsieur Drainville, vous parliez d'économie nationaliste. Vous avez parlé de plusieurs politiques que la CAQ a fait et pour lesquelles vous êtes en accord. Mais il y en a une que vous semblez en désaccord et c'est l'abandon du programme Expérience Québec, le PEC en immigration. C'est pas plus tard que ce matin, des immigrants angoissés et en colère portent la question de la fin du programme de l'expérience québécoise devant les tribunaux. Si vous êtes élu comme chef de la CAQ et ultimement comme premier ministre, est-ce que vous allez attribuer une clause grand-père à ces immigrants-là?
Alors, ce que j'ai dit hier, la réponse est oui. Clause grand-père?
Oui.
Clause grand-père, pas pour tout le monde. Parce qu'on donne une clause grand-père à tout le monde, on parle de centaines de milliers de personnes potentiellement.
En effet, un 500 000 personnes en potentiel, je ne me trompe pas.
Oui, 550, mais ça inclut ça les demandeurs d'asile. Mais on peut parler facilement de plusieurs centaines de milliers de personnes qui pourraient revendiquer le droit acquis. Alors là, on va donner un droit acquis, mais on va le donner pour les personnes qui sont ici depuis 2 ans, qui étaient là au moment où le PEC a été fermé, qui occupent des emplois qui sont prioritaires pour le Québec, santé, éducation, services de garde, construction et le manufacturier spécialisé, des soudeurs, par exemple, mm-hmm. dont on a cruellement besoin. Eux autres, il faut qu'ils restent là. Alors, donc, un droit acquis, puis évidemment, maîtrise du français. Alors, si tu occupes un emploi prioritaire, tu parles français, tu étais ici, depuis 2 ans, puis tu étais là l'automne passé, tu aurais un droit acquis pour ces personnes-là.
Et ça fait combien de personnes, ça?
On ne le sait pas. C'est bien frustrant.
Frustrant. C'est pas un peu bizarre qu'on dise, oui, on va donner un droit acquis sans savoir le nombre de personnes. Et ma deuxième question pour vous, c'est quoi la différence avec ce que le ministre de l'Immigration a dit vendredi? Parce que lui, ce qu'il dit sensiblement, c'est si c'est dans les secteurs prioritaires qui parlent français, qui travaillent et qui sont dans les régions dans lesquelles on a le plus de besoins, ils vont se qualifier dans l'autre programme d'immigration économique, le PSTQ. Donc, pourquoi donner des clauses grand-père plutôt que de renforcer le message du ministre en disant « appliquer au PSTQ et les gens dont on a besoin et tous les critères que vous avez dit seront pris en considération? »
Bien, moi, ce que je fais, c'est que je leur donne le droit prioritaire. Il passe devant tous les autres.
Mais je pense aussi que le ministre a dit qu'on allait prioriser les gens qui étaient déjà sur place.
Ouais,
donc, vous êtes d'accord?
Bien, écoutez, il a refusé jusqu'à maintenant de donner une clause grand-père, est-ce que je sache?
Bien, c'est qu'on on débat sur une sémantique. Le mot clause grand-père, ce qu'il propose, c'est qu'il n'y a pas de clause grand-père pour des gens qui pensaient appliquer dans un programme dont on ne sait pas le nombre. Inscrivez-vous au PSTQ. Comme ça, en plus, on va savoir le nombre. Et dans le respect, évidemment, de nos seuils d'immigration, on pourra accepter les gens en priorité. Vous êtes d'accord avec ça?
Bien, moi, ce que je veux, c'est que les personnes qui nous écoutent, qui vivent actuellement beaucoup d'inquiétudes, qui correspondent à ces critères-là dont je vous ai parlé, ce que je souhaiterais, si j'étais chef, là, parce que je ne le suis pas encore, mais si j'étais chef, je leur dirais, appliquez, puis vous allez avoir une clause grand-père. Et Antonine, s'il faut prolonger la clause grand-père sur plus d'une année, il faut être prêt à le faire.
Et okay, les permis de travail aussi.
Il faut
aussi
être prêt à le faire. Ouais. Ouais, les permis de travail, par contre, là, on est rendu au fédéral. Là, ouais, ça serait bien que le fédéral fasse sa part. L'autre chose que je dois vous dire, pour être bien complet dans ma réponse, pour chaque personne à qui on donne une clause de grand-père, il faut réduire d'autant l'immigration temporaire à venir, l'immigration temporaire future. Parce qu'à un moment donné, il y a eu trop d'immigration au Québec, là. Il faut quand même le dire. On en a laissé rentrer beaucoup trop. M. Trudeau a sa part de responsabilité là-dedans. Alors là, il faut rééquilibrer les affaires. Fait que moi, je me dis, il faut être humain avec les personnes qui sont ici, qui rencontrent les critères. On en a besoin, besoin économique, besoin pour nos services à la population. Mais en même temps, il faut quand même commencer, si vous me permettez, à vider la chaloupe, là, un petit peu. Alors, pour chaque droit acquis, on diminuerait d'autant. Donc, c'est un pour un. Un droit acquis, mais de l'autre côté, pour les prochains, on diminue le chiffre d'immigrants temporaires. Pas d'immigrants permanents, d'immigrants temporaires.
Ça paraît toujours bien, par contre, de tenir sa parole en politique. C'est quelque chose que vous avez dit, en fait, haut et fort. Moi, je veux travailler avec rigueur. Je ne vais pas vous promettre des choses que je ne pourrai pas faire. Mm-hmm. C'est des choses, par contre, en tant qu'électeur, en tant que commentateur de l'actualité, on entend souvent. La coalition Avenir Québec est fragilisée. Beaucoup ont quitté le bateau. Une coalition, c'est une pluralité d'idées. Vous avez vous-même eu à ravaler un troisième lien. Vous en avez... vous avez tenté, en fait, de le dire dans les médias, puis de ce qu'on comprend, nous, vous vous êtes fait rabrouer. Comment est-ce que vous pourriez...
Mais on a réussi à le ramener, Pascal. À la faveur...
En ce moment, ce l'est. Pas pour Mme Charrette, pour vous, oui. Mais si vous êtes chef du parti...
Bien, Mme Frichette, elle s'interroge. Elle s'interroge. Elle réfléchit. Moi, je pense qu'on a assez réfléchi. Et ça nous a fait très mal de reculer là-dessus. On a fini par le ramener, mais ça nous a fait passer pour des girouettes. Puis ça a beaucoup contribué à la perte de confiance, pas juste ici dans la région, mais ailleurs au Québec. Parce que même les personnes qui, mettons, n'étaient pas d'accord avec le troisième lien, ailleurs au Québec, là, ils avaient vu l'engagement qu'on avait donné.
Absolument. Quand et dans d'autres projets
quand
aussi.
Quand tu recules sur un engagement aussi important que celui-là, c'est pas juste le projet qui est concerné, c'est la valeur de ta parole.
Mais justement, est-ce que Montréal a d'affaires à se positionner sur le troisième lien à Québec? Parce que c'est un peu ça que Mme Fréchette veut faire. Oh, je vais aller consulter tout le monde en parlant de la région 450. Moi, ils n'ont pas d'affaires là, vous?
Ben moi, je... Non, moi, je veux que le troisième lien soit appuyé par le plus grand nombre, pas juste dans notre région, mais ailleurs au Québec. Quand ils construisent le pont-tunnel à Montréal, les contribuables de Québec puis de Chaudière-Appalaches, on paye pour ça?
Oui, mais quand même que j'en veux pas de pont-tunnel. Ils vont le faire quand même.
Bien, alors, est-ce qu'ils peuvent respecter notre besoin ici?
Bien, exactement.
Bon, puis, je veux juste dire autre chose, là. Les deux régions qui vont connaître la croissance démographique la plus forte ces prochaines années, puis c'est pas moi qui le dis, c'est l'Institut de la statistique. Mm-hmm. La région numéro un pour la croissance démographique les prochaines années, c'est... Capitale-Nationale. La région numéro 2 pour la plus forte croissance démographique ces prochaines années, c'est Chaudière-Appalaches. Alors, on peut-tu avoir les infrastructures de transport dont on a besoin pour être fonctionnel? La deuxième zone économique, la plus importante au Québec, c'est la zone Québec-Chaudière-Appalaches. Bien, moi, je pense que la sécurité économique de cette zone économique, je pense que c'est une bonne idée de l'assurer, cette sécurité-là. Puis je pense que c'est dans l'intérêt de tout le Québec de l'assurer. J'arrête pas de le dire. C'est pas normal que si jamais il fallait fermer la porte pour des travaux d'urgence, on est obligé de faire passer les camions par Trois-Rivières. Voyons donc.
Oui, puis c'est ce que je m'apprêtais à vous dire, c'est que est-ce que pour une fois, on pourrait faire une infrastructure pas en catastrophe? C'est comme le pont Champlain, par exemple, qui, à un moment donné, il a fallu mettre des poutrelles et tout ça. Pourquoi on attend toujours à la dernière minute avant de construire des infrastructures qu'on sait dont on va avoir besoin éventuellement? Le pont de Lille, oui, effectivement.
Mais Anthony, oui. C'est tellement vrai ce que vous venez de dire ça, puis de dire là, dis-je, puis ça aussi, je m'enflamme un peu hein, quand je parle de ce dossier-là, parce que je me sens toujours un peu jugé, tu sais. Il y a du monde là qui nous regarde de haut quand on parle de ce dossier-là, là, puis qui tu te sens toujours comme si t'étais.
Ouais, mais allez-y en flamme, mais vous, on est juste entre nous.
Non, quatre, mais ouais, mais non, mais ça fait des bonnes clips après ça, tu comprends? Mais je ce que vous venez de dire, c'est hyper important. Si jamais il arrive de quoi à la porte là, ceux qui étaient contre le troisième lien, ils vont dire bande de politiciens de courte vue qui voyaient pas plus loin que le nez, ils savaient qu'on dépendait de la porte puis ils n'ont pas prévu rien d'autre. Ben c'est ça qu'on veut faire. On veut prévoir, on veut voir plus loin que notre nez. On peut-tu l'assurer notre sécurité dans la région, notre sécurité économique. Alors, c'est ça qu'on veut faire. Fait que les bras m'en tombent. Si on le faisait pas, on nous le reprocherait. Là, on le fait, puis on... Non, les gars, regarde, moi, je le lâcherai pas. Je te le dis, je le lâcherai pas. Je l'ai jamais lâché. Même quand le gouvernement l'a lâché, je l'ai pas lâché. Puis les élus de Chaudière, puis les élus de Capitale, on l'a jamais lâché.
Bon, là-dessus, au moins, on est clair. Moi, j'avais une question d'organisation de campagne à la chefferie. Là. Moi, ça me passionne beaucoup. J'en ai vécu des courses à la chefferie. On parlait des sondages tantôt.
Oui.
On disait, bon, ça ne se gagne pas nécessairement avec des sondages seulement, une chefferie. Souvent, les premiers sondages, ce n'est pas nécessairement les résultats à la fin de la course. Est-ce que votre stratégie, ça va être de vraiment vous concentrer sur les membres existants puis d'essayer de séduire les membres existants ou est-ce que vous allez vendre pas mal de cartes de membres? Parce qu'une course aussi, c'est l'occasion de grossir les rangs, d'aller chercher des nouvelles adhésions. Combien de cartes de membres là, la campagne Drainville va aller vendre là, dans les prochaines
Écoute,
semaines?
Je ne sais pas, Antonine, je ne le sais pas, mais le plus possible. Puis la réponse courte à votre question, c'est les deux. Il y a à peu près 15 000 membres, c'est le chiffre officiel, cela, actuel. Puis moi, à toutes les entrevues, quand je peux le dire, puis je vais le dire, préparez-vous. Si ça vous intéresse, la course, si vous trouvez que le débat d'idées vaut la peine, puis je vais prêcher pour ma paroisse, si vous trouvez que les idées que je mets de l'avant, si vous trouvez que ça a du bon sens, bien, prenez-la, votre carte. Ça coûte 15 piastres, sacrifice. Ça vaut pas le prix d'une terre, ça. Ah,
c'est plus cher qu'au PQ, par exemple. 15 piastres, cher!
Alors, 15 piastres, puis ça vous donne la possibilité de voter au leadership, puis j'espère que vous aurez le goût, évidemment, de voter pour moi quand ça arrivera. Mais moi, je trouve ça, honnêtement, de ça, puis c'est ça qui est le fun, c'est que là, il y a du monde qui m'écrivent puis qui me disent « Je t'ai entendu là, à la radio, là, je vais apprendre ma carte. » Alors, moi, j'espère, évidemment, qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont vouloir la prendre, leur carte. Puis, ce que ça va démontrer, c'est qu'au moins, le débat d'idées a la peine, qu'ils n'ont pas trouvé ça plate.
15 $ M. Drainville, vous vous battez sur le choix de la tablette contre un paquet de raisins à l'épicerie en ce moment, mais ça sera aux gens de décider.
En effet.
J'aimerais vous demander, en ce moment, vous êtes un candidat qui représente les régions pour le Québec. Mme Fréchette, qui est votre adversaire, mais quand même votre collègue, un petit peu plus les ondes métropolitaines. Ça a toujours été déploré, ça a toujours été très difficile en politique de faire valoir les régions et on vous regarde un peu de haut parfois quand vous avez à défendre vos idées, vos enjeux. Là, vous visez la chefferie de la coalition Avenir Québec. Les Tres Amigos, ils en ont parlé honnêtement et ouvertement à quel point ça a été difficile de défendre Québec à travers les années avant en politique. Est-ce que vous attendez à la même chose, en plus, en tant que chef d'un parti?
Bien, la dernière fois qu'il y a eu un chef de parti, moi, ce qu'on me dit, chef de parti, premier ministre, je connais mon histoire, je n'ai pas fait ces vérifications-là, mais ça a du sens. Paraît-il que c'est Jean Lesage. C'est la dernière fois qu'il y a eu un premier ministre basé dans la région de Québec. Fait que c'est certain... Moi, je vais être le chef, puis ça donne premier ministre, dans ce cas-ci, de tous les Québécois. Mais j'habite dans la région depuis 20 ans. Puis mon opinion sur le troisième lien, ça tient beaucoup à l'expérience que j'ai vécue ici. Quelqu'un qui ne vit pas ici, puis regarde ça depuis Montréal, ça se peut qu'il ne voit pas la nécessité. Mais si tu as habité dans le coin, puis tu as vu la croissance qu'on a connue, puis tu sais tout ce qui s'en vient, là, notamment avec le chantier des vies, les investissements qu'on est en train de faire, c'est incroyable ce qui va se passer là, là. Puis là, on négocie avec le fédéral pour d'autres contrats de brise-glace. Ça veut dire encore plus d'emplois, ça veut dire encore plus de mobilité, ça veut dire encore plus de trafic. Fait que c'est certain que cet ouvrage-là, on va en avoir de besoin. Alors, le fait que j'habite ici, je pense que ça me donne une sensibilité plus grande pour les enjeux de la région. Et je ne m'en excuserai pas. Je veux être... Tu sais, je suis un Québécois...
Est-ce qu'on est dans une guerre Québec-Montréal entre vous et Christine Fréchette?
Je veux pas que ça revire comme ça.
Vous voulez pas?
Non.
Parce que je sens ça, moi. Je sens que Mme Fréchette est à Montréal, puis elle essaye de plaire à la base 4-5-0. Puis Bernard Drainville, c'est pas étranger le fait qu'il ait lancé sa campagne à Lévis, qu'il soit dans les stations de radio à Québec, puis qu'il promouvoie le fait que ça fait 20 ans qu'il vit à Québec. Je sens qu'on est dans une scission de la CAQ entre la métropole et la capitale nationale.
Bien, il faudrait pas, parce qu'il va falloir travailler tout le monde ensemble après la course. Cela étant dit, je m'excuserai pas de venir de la région, là, puis je m'excuserai pas de défendre les dossiers de la région. Puis je m'excuserai pas d'être le candidat des régions.
Ça peut-tu être plus ardu de vous faire prendre au sérieux par la suite?
Je penserais pas. Hey, moi, là, Tu sais, puis c'est un peu ça que le sondage démontrait, là, c'est que je porte un petit peu le poids des cicatrices des combats que j'ai menés auparavant. Puis il y en a, tu sais, qui n'ont pas aimé certaines positions que j'ai prises. Mais s'il y a une chose, puis Mme Iaccarini est si présente, pourrait en témoigner, parce qu'on a été collègues dans une autre vie. Je pense qu'Antonine l'a déjà dit ses ondes, là. Je veux dire, je sais pas...
Il n'y a pas de secret là-dedans.
Il n'y a pas de secret là-dedans. Mais je me tiens debout, OK? Puis quand ça vente, puis quand ça brasse, je ne sors pas de la cuisine, puis je ne m'en vais pas me rouler en petite boule dans un coin. Je me tiens debout, puis je mène mes batailles. Alors, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Puis hier, dans mon discours, j'en ai nommé des groupes d'intérêt, là. J'ai nommé notamment la force de blocage des syndicats, là. Je pense qu'effectivement... Les règles doivent être changées avec les projets de loi de Jean Boulet que j'appuie de tout mon cœur. Ça n'a pas de bon sens. Il y a certaines directions syndicales qui sont complètement déconnectées. Puis oui, il faut remettre de la démocratie, puis il faut remettre de la transparence, puis de l'imputabilité dans le fonctionnement des syndicats. Bon, alors ça, je l'ai dit. Pensez-vous que ça me rend populaire auprès des leaders syndicaux, ça? Déjà, Magali Picard, au congrès du PQ, est sortie pour dire « Drainville, on n'en veut pas ». Bien, sais-tu quoi? C'est pas pour elle que je fais de la politique. Moi, j'ai été élevé dans un... Je viens d'une ferme, famille de 6 enfants, puis j'ai pas été élevé dans l'argent. Il y a rien qui m'a été donné gratos. Ce que j'ai fait, ce que j'ai réussi, je l'ai gagné, puis je crois là-dedans. Puis quand je dis que je veux être le candidat des gens ordinaires, bien, je le crois. Parce que je les comprends, je viens de là. Quand je dis que je veux que la famille redevienne un projet de société au Québec, oui, parce que la famille, il n'y a rien de plus important pour moi. Il n'y a rien de plus important que la famille.
Bernard Drainville, candidat à la chefferie pour la Coalition Avenir Québec. Merci beaucoup de vous être présenté en studio aujourd'hui.
Bien, j'espère que ça ne sera pas la dernière fois.
Ben non, merci pour votre transparence dans vos réponses. Vous avez fait bonne impression auprès de nos auditeurs en majorité.
Vous voyez ça, là?
Ben oui, par texto, ça rentre.
Oh, vous n'êtes pas surprise, on avait fait de la radio.
Ben oui.
Ouais, mais ça dépend, là. ça dépend, mais je suis content.
Je vais vous dire un commentaire qu'on a reçu. Il est en feu avec un bonhomme sourire.
Ah, tant mieux. Ben dites-vous, monsieur ou madame, ce qui me ferait encore plus plaisir... Allez, prendre votre carte.
Un petit 15$, hein?
N'est-ce pas?
Hey, un petit 15$.
Paquet de raisin ou carte de membre?
Un petit 15$ pour voter pour le prochain ministre, le premier ministre du Québec. Bernard Drainville, merci. Toujours un plaisir.
Merci.
Après la pause à l'émission Nageuse, on va faire un retour sur cette entrevue. Également, on va parler de ces fameux poêles à bois-là. Ben oui, la Ville de Québec, encore hier à 17h, a dit « Vous n'avez pas le droit de chauffer ». Mais quand on s'est levé ce matin, il faisait moins 28 ressentis. Mais on n'avait pas le droit de chauffer notre poêle à bois. Et quand je regardais dehors, ben je voyais ces usines-là qui emboucanaient le ciel de Québec. Mais eux autres, ils ont le droit encore de continuer. On en parle avec Antonine Iaccarini après cette courte pause à l'émission Nageuse sur Boulevard 102.1.
Nageuse jusqu'à 14h.
Il est présentement 12h34. Vous écoutez l'émission Nageuse sur Boulevard 101 avec Jeff Fortin, Pascal CV, Antonine Iaccarini toujours avec nous parce qu'on a eu le bonheur de discuter, de passer en entrevue Bernard Drainville, candidat à la chefferie de la CAQ. Ça se retrouve, Pascal, sur YouTube?
Sur YouTube, c'est en voie d'être disponible dans les prochaines minutes. Il y aura également l'audio complet sur le site de blvd.fm.
418-971-1021 pour réagir à l'entrevue. Je vous dirais que jusqu'à présent, c'est à peu près 75%, 25% de gens qui ont apprécié la performance de Bernard Drainville. Est-ce qu'Antonine, ça veut dire que Bernard Drainville est vraiment sur des sujets qui touchent les gens? Parce que normalement, quand on reçoit un politicien...
Le vrai monde!
Bien, normalement, quand on reçoit un politicien, on serait plus dans le 30% qui en apprécie, ben 70% oui. qui disent « t'es rien qu'un maudit menteur ».
C'est
puis
vrai.
Puis là, j'ai pas ça du tout par texto à l'heure actuelle.
Non, puis c'est vrai que l'ambiance autour de sa campagne est positive. Là, parce que M. Drainville nous a habitués dans les dernières années, il est un petit peu plus... Il avait l'air plus grognon. Puis c'est vrai que maintenant qu'il reparle de la saga du troisième lien vu de l'intérieur, on comprend qu'il pouvait effectivement parfois être un peu grognon. Mais là, il a l'air de bonne humeur, il a l'air en forme, il a l'air en feu. Puis je veux aussi préciser que l'invitation est lancée hein, aussi pour Christine Fréchette.
Oui.
Là, on lance évidemment l'invitation aux deux candidats et dès que Mme Fréchette est prête à venir nous voir, ça va nous faire grand plaisir aussi
est-ce qu'elle
de
le
la
sait
recevoir.
Que Bernard est venu deux fois d'ici les invitations?
Son équipe le sait, en tout cas.
Okay.
Alors, on l'attend impatiemment. Moi, je vais vous dire bien franchement, je pense que Mme Fréchette peut-être ne court pas beaucoup les radios de Québec en ce moment parce que, justement, sa position sur le dossier du troisième lien, elle a dit qu'elle allait consulter. Mais c'est sûr que de venir te faire cuisiner par les animateurs de radio à Québec sur le dossier avant d'avoir pris une position plus claire, peut-être que c'est pas ce qu'il y a de plus confortable.
Mais c'est pas transparent? Point d'interrogation, un peu comme Paul Saint-Pierre Plamondon quand il parlait dès le début d'un référendum, si jamais il est élu, de venir s'asseoir comme ça. Tu le vois comment, toi, comme
ancienne communicatrice? Ben moi, en fait, j'ai été surprise de voir que Mme Fréchette a dit « je vais consulter ». Ça fait des années qu'on en parle.
Ouais, c'est ça.
Du troisième lien. Mais ça semble être un enjeu pas trop évident pour elle et peut-être pour les gens autour d'elle. C'était tantôt, Jeff, tu parlais d'un affrontement Québec-Montréal. On le sent, la Montréal, tout le monde rit de nous autres avec le troisième lien. Il faut être clair.
Oui, oui.
Les autres, là, ils trouvent ça ridicule. Donc, c'est sûr que de notre point de vue, où est-ce qu'on se dit, faisons-le, il y a un engagement qui a été pris ici à Québec, ça nous semble évidence, mais c'est pas si évident quand tu essaies de concilier d'autres intérêts électoraux dans d'autres régions.
Encore plusieurs textos qui entrent et la très grande majorité sont positifs. Donc, notamment Pierre-Luc qui écrit « Bernard est une personne sympathique, alors normal que ça ressorte dans ses entrevues. » C'est vrai, j'ai eu la chance de jaser une quinzaine de minutes avec lui avant l'entrevue. Un bon gars, Bernard.
Ouais, ben, oui, puis, tu sais, tantôt, Pascal, tu posais une bonne question. C'est quoi le fil conducteur un peu de son engagement politique? Vraiment l'impression que l'humain est au centre de son engagement politique. C'est quelqu'un qui aime le monde.
J'ai eu un peu la même impression parce que, bon, on niaisait avec le fait que, ben on niaisait pas. C'est une réalité, tu es son ancienne collègue. Mais moi, j'ai été son ancienne collègue dans la sphère radio, donc médias. Les deux, on a un peu un vécu différent avec Bernard, mais il y a une affaire sur laquelle on est capable de trancher. C'est un homme rigoureux et humain. Quand tu te mets dans un dossier, là, on ne parle pas des compétences, c'est à vous de juger. Mm-hmm. Par contre, dans les domaines où on l'a côtoyé, on l'a trouvé compétent sur ces valeurs-là, assurément.
Oui, puis c'est quelqu'un d'extrêmement travaillant, même ça en était
peut-être
trop des fois.
Peut-être trop, c'est ça.
Donc, tout ça transparaît, je pense, dans l'entrevue. Puis, tu sais, des fois, les policiers, à un moment donné, on leur met une étiquette, puis on les écoute même plus. Puis avec la CAQ, dans les dernières années, c'était un peu ça. Donc, j'ai l'impression que cette course à la chefferie ouvre un peu la fenêtre et les gens réécoutent à nouveau. Mm-hmm. Et là, peut-être vont se dire, ouais, c'est vrai que j'étais dans mon impression face à une Christine Fréchette, à un François Legault même, et à un Bernard Drainville, mais on dirait qu'il y a un petit peu plus d'écoute pour découvrir ou redécouvrir certaines personnalités politiques. Et aussi, c'est que M. Drainville apporte un discours qui détonne un petit peu. Il n'est pas dans les grosses ruptures par rapport à la CAQ, mais quand même, il se permet de critiquer. Donc, je pense que les gens apprécient aussi quand les élus n'ont pas la langue de bois. Ils sortent un peu de la langue de bois. Là, c'est messages sont bien ficelés, là, puis il fait des tournées d'entrevues, puis il dit les mêmes messages partout, puis après ça, Infoman va faire des montages avec tout ça, c'est bien sûr. Mais je pense que les gens ressentent
quand
même...
Chacun fait sa job.
Chacun fait son travail. Mais je pense que les gens ressentent quand même une certaine authenticité chez cette personne-là.
Oui, vraiment. Alors, puis moi, je suis content. Défends la capitale nationale. Vas-y, mon Bernard, défends notre belle capitale nationale.
Ça peut-être difficile, Antonine, ça, parce que souvent, les policiers en ont parlé. Denis avait fait une longue entrevue avec les trois amigos, tu sais, qui ont travaillé très fort en politique, mais Québec, et d'y être... Et de parler souvent de cette région-là, ça peut être une épine dans le pied.
Moi, je le sens pas. J'ai l'impression, en fait, que c'est quand on s'assume pas qu'on a de la difficulté à défendre quelque chose. Puis, tu sais, des fois, on a tendance à mettre en opposition Québec-Montréal. J'ai l'impression qu'on est rendu à passer à autre chose dans notre vie. Mm-hmm. Québec, c'est Québec. Montréal, c'est Montréal. C'est différent. Il y a des similitudes, il y a des intérêts communs. Québec, c'est la capitale du Québec. Et Montréal, c'est la métropole. On n'a pas besoin de choisir notre camp, mais je pense que quand vient le temps de décider de nos projets de transport ici, je pense qu'on peut les décider dans la région. Merci beaucoup.
Antonine, breaking news sur Radio-Canada. Ils ont mis la main sur des dossiers juridiques impliquant la poursuite de 500 000 $ que Geneviève Hines a intenté à l'endroit de Marois Risky. Et dans ce que la défense propose, comme défense, ça c'est mal dit, mais en cours...
Leur défense, finalement.
Leur défense, exactement. Marois Risky mentionne que Geneviève Hines, à plusieurs occasions, a tenté d'avoir de l'argent qui est réservé à l'Assemblée nationale pour payer du personnel qui aurait travaillé avec Pablo Rodriguez, mais au niveau du Parti libéral du Québec et non pas à l'Assemblée nationale. Et ce qui peut paraître très, très dévastateur pour Geneviève Hines, c'est qu'elle avait même mentionné à Marois Risky qu'elle pouvait exploiter les zones grises du Code d'éthique afin de fournir au chef le personnel nécessaire pour, entre autres, préparer la plateforme électorale du PLQ et répondre aux livres bleus présentés par le Parti québécois.
Ça a l'air fou vu de même, hein? Mais les zones grises... elles existent. Mm-hmm. Elle a raison, Mme Hinz, qu'il y a des zones grises et ça a toujours été. J'écoutais une entrevue là, pendant le plus fort de la crise au Parti libéral de Jean-Pierre Charbonneau, qui est un ancien ministre des institutions démocratiques, qui est quelqu'un de très, très respecté et qui est vraiment pas quelqu'un qui étire l'élastique de l'éthique, mais lui-même le disait, ces zones grises-là, elles existent. C'est-à-dire que tu as du personnel qui est payé par l'Assemblée nationale, donc par des fonds publics, qui sont censés faire le travail parlementaire, mais ils font aussi une partie du travail partisan. Tu ne peux pas t'en sortir. Ils sont élus, c'est des députés, ouais, qui sont élus sous la bannière de partis politiques. Donc là, il y a des affaires, des fois, tu te dis, dans quelle colonne ça rentre? Est-ce que ça, c'est payé par des dons par le parti ou est-ce que c'est payé par des fonds publics par l'Assemblée nationale? Par exemple, dans le cas du Parti libéral à ce moment-là, on a un chef qui n'est pas élu. Donc, quand M. Rodriguez faisait, par exemple, une tournée régionale, et qui était accompagné par des gens de l'Assemblée nationale. Mm-hmm. Est-ce que c'est correct ou c'est pas correct? Parce que là, on prend de l'argent pour faire une tournée pour un chef qui n'est pas un élu. Donc, est-ce que c'est du travail parlementaire? Non. Mais là, il y avait des députés qui sont des élus qui accompagnaient M. Rodriguez. Donc, quand on parle de zone grise, c'est de ça qu'on parle. Et généralement, ben, ça peut faire des débats à l'interne, mais la recommandation, moi, que je dis à tous les partis, c'est soyez prêts à justifier chacune des dépenses que vous faites. Il faut que ce soit justifiable et justifié. Là, dans le cas qui nous occupe, on a quelque chose qui est coulé dans un média. Geneviève Hinz ne pourra pas se défendre de ça parce que là, évidemment, tout le monde va dire que c'est devant les tribunaux. Donc, c'est très dévastateur pour elle et pour le Parti libéral. Mais moi, je vais te le dire, Jeff, il n'y a rien de ça qui me scandalise. Au contraire. Mm-hmm. C'est tous les partis politiques, autant qu'ils sont, vivent la même chose. Quand j'étais au PQ, là, on a fait la une, Journal de Montréal, parce qu'il y avait des employés qui étaient payés par l'Assemblée nationale, mais qui faisaient supposément du travail partisan. Ça a donné lieu à un grand ménage par la suite. Après ça, la CAQ nous avait attaqué. Il avait fait un gros point de presse. Puis c'était épouvantable. Le lendemain, il était dans le journal, eux autres aussi faisaient la même chose. Donc, oui, ces zones grises-là, elles existent, mais ça vient ranimer cette crise du Parti libéral.
Ouais, mais quand même, quand ta boss ou ton boss te dit « je veux pas que tu le fasses », tu devrais pas y proposer après ça des zones grises.
Écoute, on le sait pas ce qui s'est vraiment passé. Parce que là, on est toujours, encore une fois, dans cette histoire-là.
On est encore dans les spéculations,
exact,
t'as raison.
Et des informations qui sont partielles. Et c'est, mm-hmm, le choix que Mme Risky a fait en se terrant dans le silence. Donc là, on va continuer d'avoir des petits morceaux de casse-tête qu'on nous envoie une fois de temps en temps. Donc moi, honnêtement, je suis pas prête à mettre un blâme sur Geneviève Hinz avant d'avoir toute l'histoire.
On écoute notre maire de Québec, Bruno Marchand, sur les poêles à bois.
Les gens pensent à travers ça que c'est comme une idéologie.
Oui, ben c'est ce qu'il pense.
Mais il n'y a rien d'idéologique. C'est ça que le directeur de la santé publique est venu dire la semaine passée.
Dans un effort concerté où tu as un paquet de municipalités, mettons de la MRC au complet qui embarque, on n'est pas dans le même.
C'est la ville de Québec qui en a le plus. On parle de 30 000 unités de chauffage. Alors oui, quand il arrive un smog, puis qu'on le voit venir, qu'on pense qu'il va arriver, si on agit en amont, puis là, on l'a fait 3 fois en 2 ans, là.
Bon, là, on est rendu à une 4e fois, puis avec une température de moins 28. Antonine, tu es toujours ma boussole. À savoir si je dois, et là, je vais faire le jeu de mots, m'enflammer, ou si je dois demeurer calme. Et là, dans le dossier des poils à bois, je vais te le dire, je suis enflammé. J'ai le feu au derrière. Parce que là, je me dis, hey, il fait moins 28, Hydro-Québec nous dit de moins chauffer, ils nous disent de ne pas utiliser notre électricité à capacité maximale, ils coupent du service dans Pontiac à Gatineau parce qu'on n'a pas assez d'électricité, puis le maire Marchand, dans sa lubie de « je vais sauver une personne de la mort », il nous empêche de chauffer.
Oui, c'est pas une personne, hein, qu'on va sauver de la
je
mort.
Je sais, c'est 124, gestion 8 clos.
Avant de parler des poils, je vais te parler d'une petite anecdote qui nous est arrivée. Tu sais que je participe des fois à une émission qui s'appelle « Les débatteurs » de nouveau.
Oui.
Puis à un moment donné, il y avait, tu sais, on nous envoie plein de questions à un paquet de débatteurs. « Voulez-vous débattre sur tel enjeu? » Et il y avait une question sur les feux de camp. Donc, des feux quand tu vas en camping.
Oui, c'est ça.
Puis là,
c'est la prochaine étape. Vont-tu nous couper ça?
Vont-tu nous couper ça?
Fait vas-tu pouvoir faire mon petit feu dans ma cour cet été?
Écoute, moi, je n'étais pas au débat, mais j'ai écouté l'émission. Okay? Et j'étais contente en tabarouette parce que mon préjugé, c'était franchement, ils ne vont pas nous interdire de faire des
mais
feux.
Mais c'est ça. Je le veux, moi,
bon,
mon feu.
Docteur Vadeboncœur s'assoit autour de la table et il a dit, je vous dis là, 4 phrases sur à quel point les particules de fumée de bois affectent la qualité de l'air et tue des centaines de personnes chaque année
Alors, c'était l'effet expliqué.
Oui, et la science est têtue. Bien, c'est ça. Mais la science est têtue. Puis moi, j'ai un petit foyer chez nous. Tu as un petit foyer d'ambiance. Fait que là, je ne me chauffe pas avec ça. Fait que là, quand il y a une interdiction, j'ai pas le droit de l'utiliser.
Puis là, à partir de 2030, ton foyer d'ambiance...
C'est fini, mais on me l'a dit d'avance. Alors, je le sais. Et à partir du moment où j'ai vu les chiffres et que tu sais que les particules fines, c'est l'élément qui a le plus grand impact sur la qualité de l'air et sur le smog, moi, je m'excuse, mais... Je ne vais pas me battre pour mon petit confort, mon petit feu de foyer, d'ambiance, si on me prouve que ça a un impact épouvantable sur la qualité de l'air. Moi, je trouve qu'on y va avec parcimonie. Est-ce qu'on a bien communiqué? Peut-être pas toujours. Puis ça, c'est vrai. Puis des fois, tu sais, quand on parle de manière très idéologique, c'est sûr que ça passe moins bien, mais c'est une gestion du changement. Les gens, c'était comme si c'était un droit inaliénable de faire de la fumée dans ta cheminée. Puis tantôt, avant la pause,
ouais,
tu disais...
moins 28 tantôt.
Bien, les gens qui se chauffent au bois sont pas soumis à l'interdiction. Est-ce que je me trompe?
Non, sont soumis à l'interdiction. Faut que t'aies changé ton truc. Puis là, à partir de 2026, si t'as pas changé ton foyer,
fané. C'est ça, mais
Oui, c'est vrai, t'as jusqu'en 2026, 1er septembre 2026.
Puis on nous a avisé quand même, il y a un petit moment déjà qu'on s'en allait vers une transition. Puis c'est ça aussi, les questions de santé publique puis d'environnement, c'est qu'à un moment donné, on donne une période de temps pour s'adapter à tout le monde. C'est plate, ça nous brise notre petit confort, mais moi, je m'excuse, je n'ai pas le feu au derrière... sur cette question-là, moi qui ai un beau petit foyer que j'aime beaucoup.
Moi, je vais continuer à l'avoir pour nos citoyens parce que là, qu'est-ce qu'ils vont nous enlever après? Nos feux à l'extérieur.
Oui, mais peut-être. Puis la qualité de l'air à Québec, c'est quelque chose qui est un dossier dont on parle depuis longtemps et qui est concentré dans certains quartiers. Et je pense que c'est pas concentré
notamment
dans...
notamment Cap-Rouge.
Oui, et je pense pas que c'est toujours concentré dans les quartiers où les gens utilisent, c'est par exemple Limoilou. Oui,
j'habite à Limoilou et c'est très complexe, mais la différence là, que j'ai vue dans la qualité de l'air, j'ai bien compris les citoyens une fois que je me suis établie là.
C'est un effet réel sur la santé.
Et je peux pas faire de potager, je peux pas avoir de plantes, je peux pas avoir de fines herbes sur mon balcon. Ça vient dégueulasse, poussiéreux. Je lave mes fenêtres plusieurs fois par année. Là, vous allez me dire, c'est normal. Non, pas à ce point-là. C'est quelque chose, là. Je me demandais, Antonine, en politique, s'il y a le syndrome Marc Labrèche. Le syndrome Marc Labrèche, moi, je l'ai inventé parce que je me dis, cet homme-là a un genre de droit de veto sur n'importe quel sujet. Les gens écoutent, puis ils vont pas nécessairement le juger. Il y a un aura où on se dit, Marc Labrèche, quand il y a une opinion, ben, on n'est pas tout de suite en train de se fâcher. Est-ce que pour Bruno Marchand, il y a pas ce syndrome Marc Labrèche-là? Et puisqu'il fait une imposition de taxes sur plein de choses, il y a eu le truc des chats, il y a eu...
Oui, puis ça a très mal passé, effectivement. Les chats, on le sous-estime, mais ça a été... Je connais des gens qui ont voté contre lui à cause de ça.
À cause de ça, ben oui. Est-ce que ça se peut que Bruno Marchand ait un petit peu joué sur ce qu'il représente dans ces dossiers-là, soit un dossier scientifique peut-être fort intéressant à se faire expliquer, puis qu'il a perdu un peu son droit de veto là-dessus parce qu'il l'a imposé sans l'expliquer?
Bien, l'imposer sans l'expliquer. Si M. Marchand était là, il se défendrait là-dessus. Et je serais bien étonnée qu'il n'y ait pas du tout eu d'explication.
Mais tu comprends
de nos jours,
de tout le monde.
Oui, puis de nos jours, c'est dur de rejoindre les gens aussi dans les communications. Puis ça, c'est un élément qui dépasse beaucoup la politique. Là. C'est que, premièrement, c'est plus tout le monde qui écoute les médias. Les gens sont très morcelés, les différents auditoires. Donc, moi, je ne suis pas prête à dire qu'ils n'ont pas communiqué du tout. Je pense que c'est une gestion du changement qui est très difficile à faire et qui ne fera pas plaisir à tout le monde. Puis il y a les gens qui vont profiter d'une bonne qualité de l'air, là, c'est pas, pour reprendre les mots de M. Dréville, là, ils n'ont pas toujours des lobbies là, très forts puis ils ne vont pas sortir pour applaudir nécessairement beaucoup. Donc, moi, je pense qu'on entend beaucoup les gens que ça dérange et je les comprends et j'en ai un foyer. Puis moi aussi, je me dis, ah, c'est dommage, tu sais, je ne pourrais plus utiliser mon foyer comme je le souhaite. Mais en même temps, je me dis, la qualité de l'air puis la santé des gens, ben moi, ça, honnêtement, mon petit confort à comparer de quelqu'un qui fait de l'asthme ou qui a des maladies respiratoires, franchement, là, je vais survivre.
Va falloir que je déménage en Sienne, Lorette ou Saint-Augustin, faire mon feu extérieur.
Ben, achète-toi.
Ça s'en vient.
Mets-le sur ta télé, il y a un poste là, qui est comme un petit feu.
Oui, je sais, je fais ça des fois.
Ah, bravo.
Oui, mais c'est pas la chaleur. Ça amène pas la chaleur qu'on veut. On termine avec le congrès du Parti conservateur du Québec. Je te fais entendre Éric Duhaime. Je lui ai posé la question ce matin dans Marceau le matin. Pourquoi il avait Il avait justement annoncé la candidature de 10 personnes, mais 10 personnes qui faisaient partie de son équipe 2022. Puis j'ai une question pour toi par la suite.
D'abord, c'est des gens qui ont... Moi, je vois pas ça comme une défaite. Je vois ça comme du monde qui ont pris de l'expérience parce qu'ils sont passés de 0 à 20-30 % dans le comté. T'sais, c'est quand même phénoménal ce qu'ils ont fait. Ils ont eu 4 ans souvent. Puis ceux qu'on nomme présentement, là, c'est des gens qui ont passé 4 ans à continuer à se battre, à continuer à se faire connaître, à continuer à vendre des cartes de membres, à développer leur réseau dans leur comté. Fait que moi, je voulais les encourager. Moi, j'ai un préjugé favorable pour ceux et celles qui étaient là quand on était à zéro, puis qu'aujourd'hui, quand on est dans des comtés qui sont proches de gagner...
T'ont cru au parti quand le parti commençait.
Tu sais, il faut que tu sois loyal puis fidèle à ton monde si tu veux que ton monde soit fidèle. Fait que moi, j'ai été fidèle à ces gens-là, puis je voulais les nommer tôt pour qu'ils aient plus de temps pour continuer à se faire connaître.
Je suis quelqu'un de loyal, moi aussi, Antonine. Mais en même temps, je regarde les sondages pour le Parti conservateur du Québec. 14 % que ce soit Christine Fréchette ou Bernard Drainville. Donc, on stagne là. Et là, on revient avec le même monde. Fait que ça, c'est signe de quoi? Est-ce que c'est signe que le Parti conservateur n'est pas capable d'attirer des candidats intéressants ou c'est signe que... ce parti-là va toujours demeurer un parti très embryonnaire, un peu à la QS?
Bien, c'est une bonne question. Moi, je pense que les gens attendent de voir aussi ce qui va se passer avec... parce qu'il y a eu une course au Parti libéral. Bon, tu me disais, c'est pas une vraie course. On est d'accord.
Ah, Mario Roy, sur ses médias sociaux, dit que ça n'était pas terminé.
C'est pas fini pour Mario. On a une course à la CAQ présentement. Puis si on comprend bien, une CAQ de Christine Fréchette versus une CAQ de Bernard Drainville, ça peut être un peu différent. Donc, c'est tôt là, pour annoncer des candidatures à quelques mois des élections, alors que les plaques tectoniques politiques continuent de bouger. Moi, j'achète l'argument de M. Duhaime de dire, ben moi, c'est des gens qui se sont présentés, qui ont été motivés, qui sont restés motivés pendant 4 ans. Donc, je trouve que ça dit quand même quelque chose, surtout qu'on a parlé dans les dernières années de déchirement au Parti conservateur. Hein. Il y avait eu de la chicane un petit peu de bisbille. Donc, il est capable de ramener ces personnes-là. Mais effectivement, quand le temps va avancer, s'il n'est pas capable d'aller chercher des bonnes candidatures crédibles, venir ajouter à son équipe puis avoir dans les comtés qu'il y a des chances d'aller chercher des bonnes candidatures, mais c'est sûr qu'on va avoir une impression que finalement, ça demeure un peu un parti en dehors des marges, qui n'est pas capable là, de passer à l'étape suivante. Éric Duhaime aussi, j'ai hâte de savoir dans quelle circonscription il va se présenter. Là, il attend d'être plus proche de l'élection parce qu'il veut choisir un bon comté. Il veut être sûr de ne pas manquer son coup cette fois-ci.
En effet.
Après l'avoir manqué en 2022, puis durant la partielle cet été dans Arthabasca. Disons que je me suis demandé en fin de semaine, pendant son congrès, si ça pressait tant que ça de présenter ses candidats, en fait. Parce qu'il aurait pu attendre d'avoir peut-être 2-3 candidatures nouvelles pour faire un effet « wow » tout en même temps, mais il a préféré présenter ses vieux candidats.
Anto, il y a des gens qui veulent que tu te présentes en politique.
Ah oui? Je suis pas à cause des foyers, j'imagine?
Oui, ils ont hâte de voter pour toi. Ils disent « les gens veulent pas évoluer ». Anto, à chaque fois que tu prends position sur un dossier et que je compte toi, je mange une volée par texto.
J'étais sûr que j'allais me faire ramasser, par exemple, sur la question des foyers, parce que les gens n'ont pas envie d'entendre ça.
Les gens, là... Écoute, Antonine, tu pourrais devenir la première ministre du Québec.
Ah, ça sera pas pour tout de suite.
Non.
Mais ça va me faire plaisir de continuer à jaser de ces choses-là avec toi.
Parce que c'est
une bonne politicienne, elle n'a pas fermé la porte. Hein? Non. C'est pas non.
Mais moi, je pense que personne ne devrait fermer. Plus aussi, tu vas me dire une réponse de politicienne, mais les gens qui disent jamais. Moi, je dis, mais non.
Mais dans ta vie, en général, jamais, tu dis pas jamais.
Mais non.
Faut jamais dire jamais. Puis moi, j'espère que les gens gardent cette option-là dans leur tête ouverte.
Tout le monde?
Ben pourquoi pas, même si, par exemple, tu n'as pas nécessairement le parcours pour devenir premier ministre du Québec, peut-être que tu peux devenir conseiller municipal, t'impliquer dans certaines choses, mais moi, je pense qu'il ne faut jamais fermer la porte.
Ouais. Christian dit, présente-toi pas en politique, par exemple, parce qu'il ne t'aimera plus.
Ah, OK.
Ça, c'est la phrase de Yannick
bon.
Marceau.
Oui, c'est ça, c'est la phrase de Marceau.
C'est vrai, tout le monde t'aime quand tu n'es pas encore élu. Ça,
yes.
C'est... Ouais.
Caucus avec Antonine Iaccarini du lundi au jeudi, normalement de 12h05 à 12h30. Aujourd'hui, on l'a fait un petit peu plus tard parce qu'on avait Bernard Drainville en entrevue. Ça va être disponible sur le blvd.fm après l'entrevue. C'est déjà disponible sur YouTube. Et si vous ne l'avez pas fait, allez vous abonner à notre page YouTube parce que vous retrouvez des entrevues comme celle de Bernard Drainville. Vous retrouvez également des podcasts.
Parle pas trop vite, par contre, c'est en chargement pour
c'est
le YouTube.
Chargement.
Je veux pas que les gens y aillent, trouvent pas, puis là, ils retournent pas. Donc, ça va venir, on va faire ça.
Tu fais bien de me remettre à l'ordre. Antonine Iaccarini, on se parle demain.
À demain.
Merci beaucoup.
À Boulevard 102.1 avec Jeff Fortin et Pat.
Il y a un superbe événement qui s'en vient au Centre de foire de Québec et c'est l'Expo Moto qui vous donne rendez-vous du 13 au 15 février. L'Expo Moto, c'est quoi? C'est près de 400 motos neuves et d'occasion. Des conférences exclusives sur la scène XPN, des rencontres avec Michel Barrette, Hugo Girard et Jean-Sébastien Roy, et plus encore. Tu veux aller au Salon Expo Moto? T'es auditeur de Boulevard 102? Haha! Ça tombe bien, texte-moi le mot « moto » au 418-971-1021 avec ton nom et ton numéro de téléphone. Donc, « moto » au 418-971-1021 avec ton nom et ton numéro de téléphone. Et parmi tous ceux qui vont participer, bien au hasard, on va faire un gagnant d'un laissez-passer double pour le salon de Expo Moto du 13 au 15 février prochain. Pascal, on a vraiment fait plusieurs sujets d'actualité avec Antonine, avec M. Drainville également. Mais qu'est-ce qu'il y a à retenir là, rapidement dans l'actualité, autre que la sphère politique?
On se souvient tous des accidents du côté du Mont-Saint-Anne qui étaient survenus en février et en mars 2020 à la station de ski avec les télécabines. Bien, il y a une proposition d'entente qui a été faite. Donc, on a deux recours collectifs qui avaient été entrepris à la suite de ces accidents-là. Et la proposition d'entente est de 5,1 millions de dollars pour les victimes des accidents des télécabines au Mont-Saint-Anne. Donc, on veut indemniser les victimes des accidents qui étaient arrivés en 2020, mais ça va être soumis au tribunal dans un mois. Et ça, l'objectif, c'est de mettre fin aux actions collectives qui ont été déposées contre la station. Donc, on est un petit peu en train de travailler pour éviter tout le tralala qui s'ensuivrait avec les actions collectives. Et ça, ça a été annoncé aujourd'hui, il y a quelques minutes, par le cabinet d'avocats Tremblay-Bois. On représente les victimes dans cette affaire-là. Donc, l'audience devant la cour, c'est pour le 3 mars prochain. On va mettre ça au calendrier et on va le suivre au Palais de justice de Québec. Il faut savoir que dans le communiqué de presse du cabinet qui représente les demandeurs, bien, on sait que c'est près de 300 réclamants possibles qui pourraient entrer avec formulaire en détaillant les dommages subis pour ce genre de réclamation-là. Sinon, je peux te parler de Bruno Marchand. On vient de le faire, mais avec les feux de foyer cette fois-ci. On va y aller pour toute la région en général. Bruno Marchand, maire de Québec, a dénoncé les coupes en transport collectif. Donc, on a réduit les budgets au niveau du provincial. C'est le gouvernement Legault qui avait pris ces mesures-là dans trois MRC. Et on a réduit de 2,2 millions de dollars sur trois ans. Et c'est ça qui est déploré par notre maire aujourd'hui. Donc, on dénonce les coupes pour le transport en commun, le transport collectif. Et je le cite, « Ce n'est jamais une bonne nouvelle de voir les enveloppes dédiées au transport collectif diminuer. Les compressions affectent directement la capacité des sociétés de transport à maintenir des services adéquats. » On est encore dans ce genre d'interprétation-là importante au niveau des enveloppes budgétaires du transport collectif. Dès les fuites, il y a une piétonne happée à Québec, donc automobiliste qui a pris la fuite après avoir été percuté, une piétonne de 62 ans. Et c'était ce matin un peu... après 8h30, à l'intersection de la rue Seigneuriale et de l'avenue des Cordillères, ça c'est dans l'arrondissement Beauport, femme de 62 ans qui a été frappée, elle se déplaçait à pied, elle a été transportée dans un centre hospitalier, on ne craint pas pour sa vie. C'est un homme qui était au volant du véhicule, il a été arrêté pour avoir commis un délit de fuite, il a 66 ans, il est détenu, il devrait rencontrer les enquêteurs au cours de la journée. Et je termine également avec une nouvelle, on veut la piétonnisation de l'avenue Cartier et c'est encore réclamé. C'est hier soir qu'on le faisait, je pense que c'est important de le dire.
Oui, au niveau du comité de citoyens.
Exactement, et on a relancé tout ça au conseil de Cartier.
Marie Langlois, la directrice générale de la SDC, Société de développement commercial de Montcalm, qui inclut l'avenue Cartier, sera en entrevue avec nous demain, 12h35, pour ce sujet et surtout la rencontre avec le maire de Québec concernant les travaux du tramway. Ça se déroule ce soir à huis clos. Fait qu'on va en savoir un petit peu plus avec Marie Langlois demain, manquez pas ça, 12h35 sur nos ondes, on en jase.
Petit clin d'œil pour la nouvelle qui est sortie, dont on a abordé les informations là, dans le caucus Iacarini, mais dans la dernière heure. On parlait de Geneviève Hines qui cherchait des zones grises pour contourner les règles éthiques. Et ça, c'est les allégations de Marois Risky, vous savez, dans toute la polémique du Parti libéral. Marois Risky, dans un document juridique, c'est Radio-Canada qui a mis la main là-dessus, qui a eu une copie, allègue en fait qu'on était dans des zones grises politiques un peu dangereuses. Et c'est dans le cadre de la poursuite de 500 000 $ de Geneviève Hines intentée contre Marois Risky qu'on a réussi à avoir certains documents.
Semaine très importante, c'est la Semaine nationale de prévention du suicide, Pascal, et à Boulevard 102, on se donne toujours l'objectif d'en parler énormément. J'ai la chance de présenter un podcast ce soir dans la série Hors série avec Éric Légaré, qui est porte-parole pour l'Association prévention du suicide du Québec. mais surtout mon cousin. Puis on a vécu des événements en lien avec des idées noires et des tentatives de suicide. Donc, on vous présente ça ce soir à 19h. Et là, bien, question de parler de ce podcast-là, Pascal, si vous, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Éric va venir s'installer avec nous immédiatement après la pause pour discuter de notre expérience, qu'on a vécu une expérience avec plusieurs émotions qui ont passé à travers le corps. Et question de se mettre en bouche. Avant la pause, je vous présente un extrait de ce podcast. C'est une conversation qu'on avait et à ce moment-là, je raconte comment mon chum Pascal est venu me sauver. Puis je me souviens de le regarder. Il parle pas. Il est assis là. Il attend. Puis à un moment donné, je le regarde, je vais juste dire merci, man.
As-tu eu le bon réflexe de faire signe à deux personnes en qui tu avais confiance?
Ouais.
Ton frère et ton best chum. Moi, malheureusement, j'ai pas eu ce réflexe-là.
Ouais.
Puis pourtant, sacrément, il y en a du monde.
Ben oui.
Mais
tu sais, j'ai eu le bon réflexe, mais j'ai quand même eu le bon réflexe très tard. Là.
Tard, oui, mais
attends quand même.
Vaut mieux tard que jamais.
Ouais,
là,
t'as raison.
Tu sais, les dommages collatéraux sont quand même là, mais moins néfastes que si tu n'avais pas fait signe à tes amis.
En effet.
Parce que tu serais plus là.
En effet, t'as raison.
Ouais. C'est, le principal, c'est que tu as eu le bon réflexe de le faire. T'sais.
Jusqu'à 14h, on en jase. Le tournoi Pee-Wee de Québec est de retour du 11 au 22 février au Centre Vidéotron. Venez encourager des équipes.
Émission d'en jase, c'est ton émission du midi avec Jeff Fortin, Pascal CV, exactement 13h06. 418-971-1021, c'est le numéro pour nous texter. Vous avez été plusieurs à le faire. Donnez votre opinion sur l'entrevue avec Bernard Drainville. Votre opinion, ces fameux poêles à bois qui sont interdits par la Ville de Québec. Participez à notre concours d'Expo Moto. Donc, continuez à interagir. On aime tellement ça vous lire. BLVD.fm, c'est les meilleurs moments qui se retrouvent à cet endroit-là. Notamment, conversation, Pascal, vendredi, qu'on a eu avec Lambert Drainville et Farnell Morisset sur les violences faites aux femmes. 5 féminicides en janvier. On a eu 11 l'année passée. Il est temps que les gars, on se parle, qu'on règle nos problèmes de violence. Donc, ça se retrouve sur le BLVD.fm. Et Pascal, les gars ont mis ça sur leurs réseaux sociaux. Tu sais, quand on dit que Farnell et Lambert Drainville, ça touche à tout le monde. Là. Plus de 200 000 vues en fin de semaine sur cette chronique qu'ils ont faite.
Ils ont décidé d'allier leurs forces, en fait, pour avoir plus de visibilité dans ce discours-là. Puis ce qui en ressort énormément, puis qu'on voit dans les textos, c'est à quel point les gens ont apprécié que ce soit des hommes qui prennent part au discours et qui en parlent.
Ah non, vraiment, deux beaux êtres humains. On va le dire de même. Vendredi, on a bien aimé notre conversation. Alors, allez voir ça sur le blvd.fm. Vous pouvez nous écouter également via la web radio, l'application Boulevard 101, App Store, Google Play Store. Téléchargez ça. Il est présentement 13h07. Fait que souvent, tu es de retour au bureau. Oups, tu te mets un petit écouteur dans l'oreille. Puis t'écoutes Boulevard 101 avec l'application. Twitch.tv/BLVDFM. Toujours intéressant de savoir que vous êtes là. Vous êtes présents en grand nombre. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Et vous le savez, la page YouTube, abonnez-vous parce que vous retrouvez du contenu exclusif, dont le podcast qu'on va vous présenter ce soir, 19h, sur les zones de Boulevard. C'est une présentation de Chaloux. C'est la série hors série. Chaloux, c'est le paradis de la bière à Québec. Plus de 1000 sortes de bières pour tous les goûts. Je suis allé en fin de semaine, Pascal, j'ai ramassé de la petite Blue Moonlight parce que ça, c'est pour essayer de faire attention à ma ligne. J'ai ramassé de la petite IPA parce que comment ça me prend une petite IPA pour le
plaisir.
Pop. Puis j'ai ramassé des bonnes canettes d'IPA. J'essaie toujours d'en ramasser qu'on n'a pas bu, moi et Val, ensemble, parce qu'on aime ça se partager une petite bière en cuisinant.
Découverte.
Donc, aller chez Chaloux. Moi, je suis allé à Beauport, parce que c'est à côté de chez nous. Mais il y a un Chaloux à Saint-Émile et à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier également. Ben oui, Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Santé tout le monde. On a le plaisir, Pascal, de recevoir une personne que j'apprécie tellement. C'est le porte-parole de l'Association de prévention du suicide du Québec, mais c'est surtout mon cousin, Éric Légaré. Éric, comment vas-tu?
Ça va super bien, vous autres?
Cool, ça va très, 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 très bien. Éric, comment tu te sens dans cette semaine de prévention du suicide? J'en parlais avant la pause, j'explique aux auditeurs. On est cousins, on a vécu des événements avec le suicide. Toi, c'est en 2016, moi, c'est en 2019. On le raconte dans le podcast de ce soir, 19h. Mais comment tu files quand c'est cette semaine-là?
Un peu impuissant, parce que j'aimerais ça, à l'année, là, j'aimerais ça pouvoir aider tout le temps les gens à ne pas passer par où j'ai passé, par où tu as passé, ou bien d'autres personnes. Mais fébrile en même temps, parce que je me dis que c'est une belle porte pour justement essayer de d'ouvrir ça, de mettre ça moins tabou, parce que malheureusement, c'est un sujet qui est trop tabou encore aujourd'hui, puis surtout au niveau des hommes.
À quel moment c'est devenu quelque chose qui n'était plus tabou pour vous, les deux, en fait?
Bien, moi, je suis beaucoup dans l'animation. Je fais de l'animation de spectacle, des choses comme ça. J'ai la parole facile. Quand ça s'est arrivé, j'ai rencontré un de mes amis que lui est impliqué aussi là-dedans avec la QPS. Puis lui, il a perdu son frère par suicide. Puis ce qu'il fait, il est un maniaque de vélo. Il fait du vélo, il vient de New Richmond, il part de Québec jusqu'à New Richmond. 2 jours, non-stop, sont 12. Puis il ramasse des fonds comme ça pour sensibiliser. Moi, je suis allé le voir, j'ai dit, Cédric, j'aimerais ça que tu me mettes en contact avec les gens de la QPS. Je veux trouver une façon de faire pour sensibiliser les gens, pour pas qu'ils se rendent où ce que je me suis rendu.
Alors, c'était déjà pas vraiment tabou pour toi, là. C'était juste un passage de vie. Ben,
je te dirais que ça a été après mon événement que j'ai fait, quand j'ai réalisé vraiment tout ce que ça a occasionné, les dommages collatéraux, tout ça, j'ai fait, OK, non. Je peux pas laisser ça mort comme ça. Il faut que je fasse de quoi, il faut que je bouge. Puis ma façon de faire, c'était de parler, d'en parler le plus possible. Fait que j'ai créé une conférence. Mais c'est une conférence témoignage. Fait que je prends ma vie au complet. Je pars de ma naissance à aujourd'hui. J'explique tous les cheminements que j'ai eus qui m'ont amené à faire cet acte-là. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant, après, jusqu'à aujourd'hui.
Ça t'a-tu pris? Parce que moi, vois-tu, c'est à la suite de ma thérapie, moi, que j'ai dit « OK, c'est beau, je vais commencer à en parler officiellement. » Puis c'est drôle, c'était à l'époque où j'étais chroniqueur sportif dans l'émission Rage Against le matin, ici à Boulevard 102.1, qui est arrivé la semaine de prévention du suicide, et que j'ai dit à Rage et Elodie à l'époque, je leur ai dit « Hey, savez-vous quoi? J'aurais le goût de venir faire un témoignage. » Mais ça faisait 3 ans, moi, que c'était arrivé, ma tentative de suicide. J'ai dit « J'aurais le goût de venir vous voir, j'aurais le goût de venir vous en parler, parce que je veux sensibiliser les gens. » Mais là, je me souviens, Pascal, je m'en vais à la radio, moi. Mais il y a, puis dans le podcast, je l'explique, il y a mon frère, mon chum Pascal, qui est vraiment au courant de toute l'histoire. Le reste, les gens savent, mais savent pas trop. La gestion que j'ai eu à faire de mes messages personnels après, c'est là que je me suis rendu compte que, oui, il a communiqué avant pour empêcher le suicide, mais il a communiqué après aussi pour... t'es prendre soin de ton entourage.
Tu l'as déjà dit de mémoire, on était en onde ensemble, tu disais, les gens s'en doutaient pas, là.
Il n'y
avait aucune
tout.
Manière de se douter que j'allais pas bien.
Non, ben non, parce que moi...
Fait que ces gens-là étaient réellement très surpris d'apprendre ça, là.
Oui, mais souvent aussi, on se cache derrière un masque, comme je dis. On veut pas le montrer. On est des gars, on veut pas paraître faible, on veut pas... c'est aussi le fait qu'on veut pas paraître pour des lâches, on veut pas... Tu sais, toujours le côté... du jugement des autres, surtout en étant un gars. C'est comme moi qui faisais des combats, qui était toujours willing pour tout, qui avançait sur tout, le gros sourire d'en face tout le temps, puis que du jour au lendemain, je voulais plus rien savoir de rien, pantoute, puis que je me rentrais au travail avec la capuche sur la tête, puis je voulais pas parler à personne.
Ouais. Je vis un moment spécial présentement, je vais vous le partager. Mon gars qui m'écrit, mon père qui parle de son histoire à la radio, il écrit sur les textos de la radio. Mon père qui parle son histoire à la radio dans le but d'aider les gens, fier de son parcours et de ce qu'il devient. Hey, je suis fier de toi, le grand garçon aussi, je t'aime beaucoup.
Ça vaut cher. Puis tu sais, on en parle dans le podcast, je ne veux pas mettre de
non.
Je veux pas raconter
ce
qu'on...
Tu veux pas tout dire avant qu'on entende ce soir.
Mais tu sais, on s'est posé la question, t'es-tu déjà assis avec tes enfants pour en jaser?
C'était quoi la réponse?
Survoler peut-être, mais t'asseoir? Tu sais, moi je m'assois avec ma fille puis mon gars puis on en jase.
Non. T'as-tu l'impression qu'ils voudraient entendre ça? Y a-t-il un âge pour entendre ça?
Je pense qu'ils sont prêts. Quand les moments est arrivé, quand cet événement-là est arrivé, ils sont morts pas, trop tôt. Mais encore là, j'étais à l'aide psychiatrique après l'événement, puis mon garçon, il venait me voir tous les jours quasiment. Puis le médecin, il venait me voir, puis il disait, « Monsieur Légaré, il faut que votre garçon sorte. » Mon garçon voulait rester, il voulait savoir. Il avait 8 ans, donc il était à l'âge de comprendre quand même. C'est sûr, il faut faire attention. Tu peux pas tout dire dans les détails. Ça sert à rien de toute façon, c'est pas le but. Mais je pense que nos enfants, les tiens et les miens, sont vraiment à l'âge. La mienne est rendue à 25, mon gars 21, je veux dire, ils sont capables de comprendre. Mais m'asseoir avec eux, on l'a-tu déjà fait? Moi, non.
Non, moi non plus, j'ai jamais fait. Puis on en parle justement dans le podcast. En passant, on vit un moment vraiment drôle parce que c'est ton gars qui a écrit, c'est pas le mien. C'est Brendan.
C'est mon gars qui écrit. Sérieux? Nice.
Il fait dire qu'il est fier de moi aussi, mais il est surtout fier de son père.
Avant que tu reconnaisses le numéro de téléphone de ton fils, par exemple, ouais, Jeff. Ben,
on en parle souvent avec les cellulaires, oui, à cette tout est d'un contact, on le sait plus. Merci Brendan. J'ai des beaux chaussures. J'ai des belles chaussures de boulevard grâce à toi. On parle avec Éric Légaré, qui est mon cousin, qui est porte-parole pour l'Association de prévention du suicide du Québec. Ce soir, dans la série Hors série, à 19h sur les ondes de boulevard, on présente notre podcast Prévention du suicide, où on parle de nos histoires. Ça va se retrouver sur notre page YouTube également demain. Éric, comment qu'on fait pour délier les langues des maudits gars qui veulent jamais parler comme moi et toi on était?
D'en parler le plus possible, c'est d'aller les sensibiliser, c'est d'aller les voir, c'est de leur... Moi, j'aime bien ça, faire des petits comparatifs avec le sujet. Le meilleur exemple que je peux donner, que ce soit toi, Pascal, tu vas au magasin, tu veux t'acheter un chandail, le premier chandail que tu essaies, ça ne veut pas dire celui que tu vas choisir. Mais ton psychologue, ça ne veut pas dire que c'est lui avec qui ça va fonctionner. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais les psychologues, ça ne marche pas tout le temps, tout ça. Mm-hmm. » Essayez. Faut essayer. Faut en trouver. N'importe qui. Tu sais, on parle de psychologue, mais ça peut être un ami, ça peut être mon voisin, mon professeur d'école,
mon
boss.
Mais ça se magasine, t'as raison.
Ça se magasine. C'est important.
J'entendais un chef dans un podcast en fin de semaine qui disait, moi, quand j'ai été pour la première fois voir un psychologue, il m'a confronté. Puis il dit « Hey, fuck up. » Il dit ça pire que ça. Il dit « Fuck you, je m'en vais plus te voir, puis je change de psychologue. » Puis parce qu'il l'avait confronté, avec un pas de recul, il a réécrit, puis il a dit « Hey, je t'ai quitté, je t'ai ghosté, pour utiliser un terme moderne, parce que tu disais exactement la vérité. »
Exact.
Puis à ce moment-là, je n'étais pas capable de l'entendre de cette manière-là. Avec un pas de recul, je me dis « Colin, tu étais direct dedans. » Puis c'est ça, mais ça dépend toujours de la formule et de la façon dont ton psychologue va faire de la psychologie. Il y a plusieurs façons de faire de la psychologie. Et dans l'approche, c'est là où ça se manifeste. Fait qu'il y en a qui sont plus confrontants, du tac au tac, ça va convenir à certains types de personnalités. Il y en a qui sont plus doux, qui sont plus sensibles, qui sont plus dans l'accompagnement, peut-être avec une lenteur. Ça va peut-être convenir à d'autres types de personnes. Ça se magasine.
Oh oui. Mais la mienne, moi, on arrivait, puis je commençais la consultation, on partait sur un sujet. Puis si j'avais le malheur de sortir du sujet... Non, ramène.
Clouk, on retourne
au sujet. Elle a probablement vu que tu désertais un sujet pour une raison exacte.
C'est ça, exactement. Mais c'est de sensibiliser les gars. C'est surtout les gars, là. Un autre exemple. Tu déménages. Mm-hmm. T'as un gros divan à déménager. T'appelles ton chum, tu sais, on va te payer la pizza, la bière, puis viens-t'en.
Puis go.
Bon, mais pourquoi ça file pas, ça me tente pas, je prends pas le téléphone, j'ai le goût de prendre une petite bière avec toi, j'ai besoin de jaser. Mm-hmm. Tu le fais, faut le faire.
Moi, un gars qui consulte, je trouve ça très sexy. Bien plus que des abdos. Puis on en a parlé entre filles récemment, puis on était toutes d'accord. Je pense que c'est sûr que je suis dans la trentaine. Là, ce que j'aurais dit ça à 19, je ne sais pas.
Mais l'être intérieur est important.
Parce qu'il y a tellement de choses qui viennent éclairer. Je trouve ça très sexy.
Mais c'est de baisser nos barrières aussi, puis c'est de ne pas avoir peur. Le jugement, il est facile. Je sais, moi, des fois, je juge encore du monde. On dirait que c'est dans nous, c'est dans tout le monde. Mais... Moi, là, Pascal, je ne sais pas ce qui s'est passé chez vous en fin de semaine. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Fait qu'aujourd'hui, peut-être ça ne file pas. Peut-être que tu es tout croche. Fait que ton humeur va peut-être avec ça. Mais moi, je ne sais pas ce que tu as vécu. J'ai pas mis tes pantoufles. Fait que moi, c'est ce que je dis dans ma conférence. Je montre tout. Puis, tu sais, c'est pas pour être meilleur qu'un autre. C'est juste pour montrer aux gens que moi aussi, j'ai vécu des affaires difficiles. Mais ce que j'ai vécu, peut-être que toi, tu aurais passé à travers facilement. Mais peut-être que tu as des choses que moi, j'ai eu plus de facilité. Tu dirais, moi, jamais j'aurais été capable. Fait que c'est variable d'une personne à l'autre. Faut juste arrêter. T'as pas beau avoir des gros bras.
On devrait le faire tout le temps, mais qu'est-ce que vous en diriez, Éric et Pascal, si pour la semaine de prévention du suicide, on lance aussi l'invitation à nos auditeurs juste de communiquer avec une personne, que ça fait longtemps que vous avez parlé, que vous savez que ça va pas super bien, appelez-le, textez-le, prenez de ses nouvelles. Je pense que c'est une bonne semaine, justement, pour le faire.
C'est une bonne semaine pour ça, mais soyez prêts d'être à l'écoute.
Oui, ça, c'est vrai.
Parce que, tu sais, on se promène dans la rue, même ici au bureau, vous arrivez. Hey, salut, ça va? OK, bye. Puis, tu continues ton chemin. Mais des fois, il faut que tu sois prêt à entendre ce que la personne a envie de te parler. Parce que si tu lui ouvres une porte, c'est peut-être qu'elle a confiance en toi puis qu'elle veut se confier.
Alors, il faut que tu sois disponible à écouter. Évidemment, il faut que tu aies le temps. Pour en savoir plus sur la prévention du suicide, sur nos histoires à nous, à moi, Jean-François Fortin, à mon cousin Éric Légaré, c'est le podcast hors série Prévention du suicide. Ce soir, 19h. Sur les ondes de Boulevard 101, disponible sur toutes nos plateformes à compter de demain matin. Éric Légaré, c'est toujours un plaisir.
Un gros, gros, gros plaisir.
On s'en fait une petite jazz bientôt, sans l'ombre d'un doute.
Merci à vous deux.
Ah, c'est toujours... ça vient toujours chercher dans les émotions, parler de prévention du suicide, puis c'est bien parfait comme ça.
1-866 appel, si vous avez besoin d'aide, c'est toujours la ligne directe.
53-53-53 en texto.
Pour le texto, également suicide.ca. On va parler de bonnes nouvelles dans un instant, Pascal, à Boulevard 102, à l'émission On en jase, parce que 20 milliards de projets immobiliers ou de projets de tout genre dans la ville de Québec. 20 milliards de projets sont sur la table à l'heure actuelle. On va discuter avec le PDG de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, Frédéric Boisvert, au retour de cette courte pause à Boulevard 101.
Jusqu'à 14 heures.
13h25 minutes. Vous êtes à l'émission On en jase avec Jeff Fortin, Pascal CV. C'est une émission de midi à 14h. C'est le retour de Gravel qui va suivre de 14h à 18h. Marceau le soir avec Marc Bellemare, compte tenu qu'on est lundi, de 18h à 19h. Et ce soir, je le rappelle, c'est le podcast de la série Hors série. Jeff Fortin, Éric Légaré qui vient de se présenter en studio justement pour en parler. On va parler de prévention du suicide parce que c'est la semaine de prévention du suicide, la semaine nationale. À la météo, présentement, il fait frette, Pascal. On peut-tu dire ça même? Il fait frette.
C'est l'hiver, mais ça a été une fin de semaine assez froide, mais tellement belle. C'est encore ça qui se poursuit.
C'est encore ça aujourd'hui. Journée très ensoleillée. C'est moins 18 présentement avec le refroidissement éolien. Ce sera moins 17 cette nuit. Moins 10 généralement ensoleillé pour mardi. Moins 7 alternance de soleil et nuages pour mercredi. Et à plus long terme, moins 10 et neige intermittente pour jeudi. Pascal, il y a somme toute une vibe positive en économie à Québec. Plus de 20 milliards en projets sur la table. Puis là, on parle d'hôpitaux, de routes, de construction immobilière, de rénovation, de tours à bureaux gouvernementales. Et pour en parler avec nous, on a Frédéric Boisvert, le président-directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Frédéric, comment vas-tu?
Salut mon Jeff, ça va bien. Écoute, tu me prends en direct d'une visite d'un méga-centre de données à Donnacona avec Microsoft. Et, on est dans l'action.
Est-ce qu'on va avoir assez de travailleurs pour tous ces projets-là, Frédéric Boisvert?
Très bon point, parce qu'actuellement, nous, on publie ce matin avec... pas ce matin, ça va être plutôt en fin de journée avec la ville de Lévis, avec la Chambre de Lévis, où on dit que si on combine les deux régions combinées, on a déjà 17 000 postes vacants dans la région. Alors, si on conjugue ça avec la politique d'immigration économique du gouvernement actuel, c'est très inquiétant pour la suite des choses, parce que on peut peut-être rentrer dans ce qu'on appelle une spirale inflationniste, où lorsque le bassin des travailleurs est réduit, bien évidemment, les coûts augmentent. C'est très mathématique tout ça, là, puis je pense qu'intuitivement, vous pouvez comprendre pourquoi. Fait que c'est certain qu'on a des bons défis à l'horizon, mais il reste que quand même, il y a quand même, tu sais, qui dit investissement, ben écoute, ça percole, il y a des retombées économiques partout, puis je pense que l'économie de la région roule à plein régime, ça c'est clair.
Frédéric, je regardais dans les projets, il y a beaucoup de projets qui viennent du gouvernement du Québec. Est-ce qu'on est trop dépendant de nos paliers de gouvernement? Est-ce qu'on développe quand même assez de privé à Québec?
Ça me fait plaisir que tu me poses la question, parce que si on a comparé avec les années 90 où le poids du gouvernement du Québec dans l'économie de la région dépassait quasiment le 20%, on est rendu à 8% maintenant. 8% des emplois actuellement qui dépendent du gouvernement, alors qu'avant c'était beaucoup plus que ça. Non, notre économie a grossi, a grandi depuis les 25 dernières années, puis c'est très, très diversifié maintenant. On a évidemment les sciences de la vie, le manufacturier qui est fort, les parcs industriels sont pleins à craquer, technologie d'information, on est sur la coche avec les Vauban, les Vidence, les Cofomo, ça roule fort à Québec par rapport à ça. Puis écoute, tous les autres secteurs, évidemment, la présence institutionnelle des grands assureurs canadiens, le secteur bancaire, on est vraiment diversifié. Fait que l'idée que Québec, c'est une ville de fonctionnaires, là, ceux qui racontent ça sont peut-être plus vraiment à jour dans leurs data, là.
Le visage de Québec commence à changer tranquillement, pas vite, au niveau professionnel. C'est ce qu'on comprend, du moins affaires économiques. Frédéric Boisvert, vous étiez venu en studio avant Noël. On parlait justement du programme PEC, des immigrants qui commencent à avoir un peu chaud, là, parce qu'on menace de les renvoyer dans leur pays. Tout ça, ce sont des gens bien établis. On avait Bernard Drainville ici en entrevue en début d'émission. C'est disponible sur le blvd.fr. Mais Vous en pensez quoi de tout ça? Parce que des projets comme ça, puis vous l'avez dit, vous avez répondu à la première question en disant « il nous manque quand même des travailleurs
ouais. ».
Donc, ça, c'est bien beau arriver sur la table, mais si on n'a personne pour les exécuter, finalement, ça tombe à l'eau?
Oui, mais moi, je dirais pire que ça. C'est parce que le Québec est rentré dans un déclin démographique. Puis je vous en parle, surtout à Jeff et à la gang du matin depuis un an déjà, où le Québec rentre dans un déclin démographique qui ne sera pas réversible. Donc, la seule façon pour nous de garder notre niveau démographique, c'est par la voie de l'immigration économique. Puis on regarde tous les travaux qui à l'horizon, notamment au niveau de la région de Québec, partout, évidemment, Hydro-Québec avec les 150 milliards de restrictions pour les réseaux, les barrages, tout ça. À un moment donné, ça le fera pas. Alors, ce que j'ai de la misère à comprendre actuellement, puis qui me préoccupe beaucoup, c'est que le gouvernement du Québec actuel fait la sourde oreille. Puis ça m'inquiète beaucoup parce que ils ont introduit des nouveaux programmes, là, parce que le PEC a été remplacé par un nouveau programme qui est éminemment bureaucratique, qui est beaucoup plus exigeant que l'était le PEC. Alors, ce qu'il faut se demander à la fin, c'est pourquoi qu'ils font ça? Pourquoi qu'un gouvernement qui se dit proche des entreprises puis de la communauté d'affaires fait des décisions, prend des décisions du genre, c'est incompréhensible, c'est complètement déconnecté de la communauté d'affaires, déconnecté de nos besoins à court, moyen puis long terme. Alors, je me l'explique très mal.
Pour rappel, on parle avec Frédéric Boisvert, qui est PDG de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. On parle d'une vibe positive sur Québec avec plus de 20 milliards de projets en infrastructure. Frédéric, je voyais que vous allez créer un comité en immigration, justement. Est-ce que le but, c'est de mettre de la pression sur les différents partis politiques en cette année électorale pour qu'on revienne sur la décision de la CAQ?
Ben, oui, mais je te dirais que moi, c'est pour...
Moi, je pense que oui, là, t'as hésité.
Walk the walk, c'est-à-dire que chez nous, moi, j'ai commencé à embaucher des gens qui viennent de la diversité chez nous. Je recherche leur talent parce que je veux que le visage de la Chambre soit ajusté à une réalité démographique qui continue à Québec. Il y a une communauté d'affaires à Québec qui provient d'immigration qui est mal représentée dans les instances de la Chambre actuellement. Je veux changer ça. Puis je veux marquer aussi un petit peu de leadership par rapport à ça, où on doit leur faire encore plus de place. Ils envoient au chapitre, ils payent leurs impôts, ils payent leurs taxes, les autres, ils font des enfants ici, fait que ça a un impact économique majeur. Puis moi, je veux trouver des façons de mieux les intégrer, de mieux les recevoir, puis d'être plus accueillant. Alors, de là, l'idée du comité d'immigration, d'intégration économique avec des gens clés de différents... de différentes diasporas, différentes communautés. Puis moi, le but au final, c'est que d'affaires de Québec, la communauté d'affaires de Québec, une communauté qui est la plus représentative, qui est accueillante, parce qu'on va avoir besoin de ces gens-là dans le futur, pour nos taxes, nos régimes de pension, nos grands projets. Fait que l'idée, c'est de poser des actions tout de suite, parce que c'est très, très stratégique pour les années à venir.
Et est-ce qu'on pense que cette stratégie-là, si elle est appliquée, ça va changer le visage de Québec au niveau économique, dans le sens où on va avoir les moyens de nos ambitions pour la suite?
Ben, c'est un peu des deux, je te dirais. C'est qu'à la fois, on donne le signal au niveau leadership régional, mais qu'également, c'est toutes les entreprises actuellement, c'est sûr que plusieurs entreprises ont investi des milliers de dollars pour les choses des travailleurs à l'étranger. Maintenant, elles se sont fait faire faux bond par le gouvernement, mais ça va continuer. On aura toujours besoin de travailleurs. Fait que Québec doit devenir une terre d'accueil. Quand les gens pensent travail, famille, sécurité, élever ses enfants, il n'y a pas plus beau que Québec pour vivre. La ville de Québec, la région de Québec, c'est un vrai paradis sur Terre. C'est ça qu'on veut vendre aux travailleurs de l'extérieur qui veulent venir chez nous s'installer. On vend certainement pas des bains de neige et une température, là, mais on vend une sécurité, une paix sociale, un contexte familial idéal en termes de nos politiques sociales. Il y a vraiment là beaucoup d'atouts qui font de nous un incontournable dans le monde, en tout cas certainement, pour des travailleurs étrangers qui veulent considérer un endroit pour investir, pour s'établir et tout le reste.
Frédéric Boisvert, en terminant cette entrevue, demain, tu seras en comité parlementaire pour aller parler de paperasse chez nos entreprises.
Ouais, fait que là, il y a une règle avec le ministre Poulin. Là, ils veulent mettre en place la règle du 2-pour-1. Donc, s'ils veulent ajouter, en fait, on doit toujours enlever deux règles administratives pour en ajouter une. Puis ça, c'est une première au Canada. Le problème, c'est que c'est dans l'esprit du projet de loi, mais c'est comme une intention. C'est pas le projet de loi vient pas sanctionner l'approche. Alors, ce qu'on veut, nous autres, c'est qu'il soit intégré directement au projet de loi en termes de règles effectives dès le jour où que le projet de loi est adopté. Puis nous autres, ce qu'on veut, là, puis moi, j'entends parler de ça, Jeff, partout où je me promène, les gens sont écœurés de la paperasse bureaucratique qui vient du gouvernement. Il y en a toutes les semaines qui s'ajoutent. Là, là, les gens passent par année, un dirigeant passe au moins 32 jours par année à remplir de la paperasse. Ça n'a aucun sens. On doit libérer les forces productives. On doit s'assurer que nos dirigeants soient focus sur les bonnes affaires, sur la croissance, les investissements et autres, et certainement pas sur de la paperasserie inutile gouvernementale. Alors oui, on salue ce que le gouvernement fait, mais il doit aller encore plus loin.
Alors, on te souhaite une bonne commission parlementaire demain, Frédéric. Convainc le gouvernement que nos dirigeants d'entreprise, ce qu'ils veulent, c'est faire fleurir leur entreprise. C'est pas répondre à des critères bidons du gouvernement.
Exactement, c'est le message. Merci, mon chum.
Hey, ça fait plaisir. Salut, Frédéric.
Bye-bye, Pascal.
Merci à toi.
Salut, Frédéric Boisvert, PDG de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Il en travaille une méchante shot pour tenter de faire changer les choses au niveau gouvernemental, que ce soit en immigration ou en paperasse. Très bonne question, Pascal, pour commencer l'entrevue, parce que si on n'a pas assez de main-d'œuvre, c'est l'inflation qui va nous frapper. Puis déjà, dans un contexte tarifaire, elle frappe au niveau de l'épicerie.
Bien, on l'entend tellement, on l'entend à quel point la main-d'œuvre actuellement, celle qu'en plein scandale politique est en train peut-être d'être envoyée chez soi, celle qui fait toutes les entrevues politiques, peu importe les partis en ce moment, mais surtout au niveau de la CAQ, parce qu'au provincial, c'est directement collé sur nous. Mais on l'entend avec Bruno Marchand, la main-d'œuvre. On ne fournit pas. Si vous n'avez pas les travailleurs étrangers également pour l'agriculture, là, vous n'avez pas tout ce que vous avez dans votre assiette à chaque été. Ça, c'est un domaine, mais c'est rendu répandu dans plein de domaines. On n'a pas la croissance démographique de nos ambitions économiques, puis ça a été un des réels problèmes dans les dernières années du pourquoi on n'est pas devenu un petit peu plus indépendant économiquement. Puis on est en train d'aller foutre un gros coup de pied dans cette immigration-là. Immigration qui a prouvé qu'il pouvait être au sein de notre collectivité, notre société. Tu sais, je le comprends, puis on en parle souvent à quel point il ne faut pas empêcher des discours au niveau de la criminalité, au niveau de l'inclusion, au niveau des données qu'on peut avoir sur ceux qui souhaitent venir dans notre beau pays, dans notre belle province, dans notre belle ville, puis qui n'ont pas le dessein positif avec eux. Ça veut dire qu'ils ont peut-être des intentions qui sont malfaisantes, qui sont négatives. Ça, il faut en parler aussi, cette immigration-là. Par contre, faut pas commencer à mettre le coup de pied puis fermer la boîte de ceux qui nous aident littéralement à avoir des projets économiques à la hauteur. Parce qu'on peut bien commencer à les annoncer, mais s'il y a personne pour les exécuter.
T'as entièrement raison.
On en jase. Jusqu'à 14h, on en jase.
Très belle discussion avec Frédéric Boisvert, PDG de la Chambre de commerce et d'industrie. Ça va se retrouver sur le blvd.fm immédiatement après l'émission. Pascal, on parlait économie Québec, mais qu'est-ce qui se passe dans l'actualité, justement, à Québec et au Québec présentement?
Oui, mais je vais te parler quand même de l'économie, mais peut-être des poches de certaines personnes qui ont été lésées au Mont-Saint-Anne, parce qu'il y a une proposition d'entente de 5,1 millions de dollars pour les victimes des accidents de télécabine au Mont-Saint-Anne. C'est deux recours collectifs qui avaient été entrepris. Et ça, on avait décidé de les mettre sur pied après les accidents en février et mars 2020 à la station de ski. C'est une proposition pour indemniser ceux qui étaient dans les télécabines, mais aussi peut-être ceux qui sont touchés de près ou de loin à ces accidents-là. Et ça a été soumis au tribunal, mais ça va revenir dans un mois avec l'objectif de mettre fin aux actions collectives quand même déposées contre la station de ski. On essaie d'être très rapide dans le dossier. Ça a été une nouvelle annoncée ce matin. C'est le cabinet d'avocats Tremblay-Bois qui représente les victimes dans cette affaire-là qui est allé de l'avant avec tout cela. L'audience devant la cour est prévue pour le 3 mars prochain. C'est au Palais de justice de Québec. Le communiqué de presse révélait que c'est près de 300 réclamants possibles et les victimes vont devoir soumettre une réclamation par un formulaire qui détaille les dommages subis, peut-être certaines pièces aussi justificatives, selon l'étendue de la réclamation. Et c'est le montant exact qui pourrait être obtenu par les différents demandeurs. C'est ce qu'on lit dans le Journal de Québec et dans divers autres médias aujourd'hui. Mais c'est sûr que ça fait beaucoup jaser. Bruno Marchand parle encore de transport collectif. Pourquoi? Bien, il y a des coupes. Et dans la région de Québec, bien, on est aussi dans ces coupes-là. Pourquoi? Parce que le gouvernement Legault a réduit les budgets de 3 MRC. Québec en fait partie. On passe de 2,2 millions de dollars sur 3 ans. Et ça, ça casse bien la tête de Bruno Marchand qui a des projets en transport collectif et qui en arrache déjà dans la ville de Québec pour faire rouler les transports en commun pour satisfaire le plus de citoyens et citoyennes possible. Alors, le gouvernement Legault affecte les services des villes et de la communauté métropolitaine de Québec dans ce cas-ci. Le maire de Québec avait à dire que c'est jamais une bonne nouvelle de voir les enveloppes dédiées au transport collectif diminuer, je le cite. Les compressions affectent directement la capacité de nos sociétés de transport à maintenir des services adéquats, alors qu'elles sont nos meilleurs alliés pour lutter contre la congestion dans la région.
Une petite dernière pour la route?
Oui, on pourrait parler des immigrants qui traînent Québec en justice parce que c'est la fin du PEC. Ça va un peu avec bien
oui, avec la conversation qu'on vient d'avoir. Et d'ailleurs, Isabelle, par texto 418-971-101 qui mentionne « Comment veux-tu faire des enfants, les jeunes de 25 ans, incapables d'avoir une maison, les garderies difficiles d'accès, même principe pour les gynécologues, les pédiatres, puis rendu à l'école, peu de services. Bref, heureuse que ma famille soit faite, mais très peu d'espoir de devenir grand-mère. » C'est tellement une bonne observation.
On s'en va devant les tribunaux avec les immigrants qui sont en colère puis qui sont aussi très stressés pour la question de la fin du programme de l'expérience québécoise. C'est ça, le programme PEC. Alors, le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, il a confirmé la semaine dernière qu'il allait avoir aucune possibilité d'appliquer une clause grand-père dans tout ça. Et on a orienté les immigrants vers une autre porte. Puis la porte, c'est le programme de sélection des travailleurs qualifiés. On en a reparlé avec Bernard Drainville plus tôt dans l'émission. Vous allez pouvoir reprendre l'entrevue sur le blvd.fm. Mais c'est sûr que ça va être un dossier qu'on va parler chaque jour là, d'ici à ce qu'on arrive à une entente ou peut-être à calmer la pression. Et une autre pression qui a été très suivie, c'est celle au niveau du Parti libéral. Le Parti libéral sous Pablo Rodriguez, rappelez-vous la saga, l'ancienne chef de cabinet de l'opposition officielle Geneviève Hines qui avait été... tassé, qui avait été déploré de la part de Marois Risky. Et là, elle s'était fâchée parce qu'elle avait fait une poursuite de 500 000 $ intentée contre Marois Risky pour, entre autres, ce qu'on pense comme diffamation, etc. Puis pour Marois Risky, elle a déposé un document aujourd'hui, document juridique. C'est Radio-Canada qui a mis la main là-dessus. Et c'était la leader parlementaire de l'opposition officielle à ce moment-là. Et on dit que pour Mme Hines, elle cherchait des zones grises pour contourner les règles éthiques. C'est toujours les propos de Marois Risky.
Après la pause, on fait une chronique sportive avec Alex Laramé du 99.5 Montréal. Le Canadien de Montréal l'a emporté 4-2 cette fin de semaine face au Sable. Ils affrontent le Wild du Minnesota ce soir, 19h30. Quatrième départ consécutif devant le filet. C'est confirmé, c'est Jacob Dobesch qui va être entre les deux poteaux. On en jase avec Alex Laramé après cette courte pause à On en jase sur Boulevard 102.1.
Jeu intense qui va te faire triper.
Ici, l'esprit d'équipe et le dépassement de soi vont de pair. Viens te mettre au défi, on s'occupe de l'expérience. Tous les détails sur movementfraid.com.
Le podcast hors série est de retour pour une deuxième saison. Les animateurs de Boulevard prennent le micro pour des entrevues vraies et approfondies. Des conversations qu'on n'a pas le temps d'avoir en ondes, mais qui méritent d'être entendues. En ondes les lundis à 19h sur Boulevard 102.1 et dès le lendemain sur les plateformes. Le podcast hors série présenté par Chaloux, le paradis de la bière à Québec. Plus de 1000 sortes de bières. De la micro d'exception à la bière de soif parfaite. Chaloux, Beauport, Saint-Émile et Sainte-Catherine.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Saviez-vous que 20% des maisons ont un problème de radon? Ce gaz est invisible, radioactif et dangereux pour votre santé. Recommandé par CAA Québec, Evaradon est la solution en matière de radon. Chez Evaradon, on s'occupe du radon pour que vous n'ayez plus à y penser.
Le fin entre dans le ring. Les pops, dumplings, frappe fort. Ouch! 24 bouchées! KO instantané! Incroyable! 24 pops, dumplings, un plaisir assuré.
Dyson. Bouffe-taille avec du kick.
Tout le monde souhaite que sa rue soit bien déneigée. Pour aider les équipes, placez vos bacs et poubelles dans votre entrée et non sur le trottoir ou dans la rue. La machinerie pourra circuler plus facilement et travailler plus efficacement. Votre collaboration fait la différence. Un message de la Ville de Québec.
Courbatures, stress, blessures ou objectifs à atteindre, chez Kinatex Sport Physio, il y a un professionnel pour vous. Une approche humaine et des services adaptés à votre réalité. Chez Kinatex, votre vie active, on en prend soin. Pour continuer à bouger sans compromis, visitez kinatex.com.
C'est la grande vente Expo Habitat chez Isolation Beauport. Les taxes sont payées sur nos échangeurs d'air Aldès et plusieurs thermopompes sont offertes avec des rabais instantanés. Pour tous les détails, visitez isolationbeauport.com ou venez nous rencontrer en succursale.
Isolation Beauport.
Automobile en direct est maintenant ouvert à Québec au 2400 avenue Dalton. Viens découvrir le plus grand choix de véhicules d'occasion au Québec. Passe nous voir en semaine de 9h à 21h ou le samedi et dimanche de 10h à 17h. Automobile en direct, ton auto, on l'a direct.
Le Carnaval de Québec en collaboration avec Loto-Québec t'invite à faire la fête à la zone Loto-Québec. Découvre le Palais de Bonhomme où chaque pièce raconte une légende et lève un verre à l'hiver au bar de glace SAQ où il y a même un DJ en plein milieu du bar. Viens aussi vivre nos 5 soirées musicales, nos têtes d'affiche, Alicia Moffett, le Country Storm avec Francis de Grandpré, Matin, Qualité Motel et le Beach Party Weekend 91.9. Procure-toi ton effigie dès maintenant au coût de seulement 39 $ plus taxes dans les succursales Brunet participantes et au carnaval.qc.ca.
Le Collège Barthes et le Collège Radio-Télévision de Québec t'invitent à leur porte ouverte le samedi 7 février. Découvre nos programmes en graphisme, animation 3D, informatique, radio, photographie, cinéma et droit, ainsi que nos nouveaux decks préuniversitaires en arts et lettres et communication offerts avec plusieurs profils créatifs. Sans oublier notre nouvelle formation en création de balado. Viens étudier au centre-ville dans un environnement stimulant et moderne avec des enseignants experts dans leur domaine. Nos formations sont admissibles à l'aide financière aux études. On t'attend aux portes ouvertes du Collège Barthes et du CRTQ. Détails sur barthes.ca et CRTQ.
On est tellement content de faire cette émission avec vous à chaque midi, de midi à 14h. Jeff Fortin, Pascal CV, l'émission On en jase, exactement 13h46. Évidemment, c'est le retour de Gravel qui va suivre. On va parler de sport, fait que les maniaques de sport et du Canadien. 418-971-1021. Faites-nous signe. Écrivez-nous. Assinez-vous sur Dobèche-Montembeau qui devrait gauler. Mais avant, on rejoint Alex Laramée directement à Montréal, animateur et journaliste au 99.5. Alex, comment vas-tu?
Ça va très bien, vous autres?
Ça va super bien. Je vous fais jouer un extrait d'une chanson puis je vous explique l'anecdote extraordinaire sportive que j'ai vécue cette fin de semaine.
Non. T'es allé danser?
Non, c'était pas cette chanson-là.
C'est l'histoire de Kevin Tremblay qui fait le tour du lac Saint-Jean avec sa nouvelle Civic montée puis sa blonde de 15 ans. Couche à gauche, couche à droite, en avant par en arrière. Fais pas chaud, fais pas frais, en été comme en hiver. Fais le tour de la planète, en endroit par en envers pour Arsoud à Jonquière.
Hey, là, vous allez me dire, voyons, Jeff Fortin, comment ça, tu nous fais jouer du Jérôme 50 dans une chronique sportive? Ben, croyez-les, croyez-les pas. Vendredi, quand je suis arrivé avec mon équipe de midget à l'aréna Ancienne Lorette, un match qu'on a fait match nul 5-5, un vrai bon match de hockey offensif comme je les aime, je m'installe derrière le banc comme d'habitude, j'entends l'arbitre en chef beugler de l'autre bord de la glace. « Hey, c'est pas mon chum Jeff! » Ben, crime, c'est Jérôme 54, ma game d'hockey.
Ben voyons donc.
C'est complètement malade. Il m'expliquait que les fins de semaine, c'est un ancien gros joueur de hockey, il a joué midget espoir, et que les fins de semaine, qu'il n'y a pas de show. Et j'ai décidé de jouer au hockey. Ça fait en sorte que je me trouvais trop sédentaire à la maison. Puis bon, une, deux, trois petites bières. Puis va veiller avec un tel. Fait qu'il dit, je me donne pour les jeunes. J'arbitre des games de hockey. Puis je prends soin de ma santé. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et c'est la preuve qu'on peut pas mettre tous les artistes dans le même paquet. On entend tellement le maudit discours. « Hein, c'est bien les artistes, trop subventionnés, etc. » Non, Jérôme 50, c'est un gars qui travaille par lui-même avec sa petite agence, qui n'a pas de subvention. Puis pour arriver à la fin du mois, il arbitre au hockey. Fait que quand il va chanter des chansons, que la vie est dure avec l'inflation, il sait, lui.
Il passe par là, il dit, puis il s'en va dans le monde, puis c'en est une fierté.
Exactement. Fait que super content d'avoir vu mon chum Jérôme 50. Super content qu'il arbitre en passant. C'est un excellent arbitre de hockey. Il a arbitré une méchante bonne game. Puis,
un homme de tous les talents.
Ah! Un homme de tous les talents. Allez le voir en spectacle si vous ne l'avez jamais vu. C'est une expérience exceptionnelle. Alex Laramée, on a trippé samedi soir.
Doc, Osloon, la part devant le tir. Il a vu! Monsieur! Samedi soir lui-même! Cole Caulfield donne les devants à son équipe.
Monsieur samedi soir a frappé encore après un tour du chapeau à Ottawa. En v'là deux en troisième période contre les Sabres de Buffalo. Le Canadien se sauve avec un match qu'il n'aurait pas dû gagner. Mais ça, comme j'ai dit ce matin, c'est le propre des bonnes équipes. Quand tu dois pas gagner puis tu gagnes des matchs, ça veut dire que tu es rendu à un niveau supérieur. Est-ce que je me trompe?
Je pense que tu as raison, Jeff. Ça a été un match, vraiment, je dirais, un classique du Canadien. Première période correcte, deuxième période complètement atroce. On s'est fait dominer de A à Z en deuxième période. Je regardais le match et je me disais, OK, on va avoir besoin d'une autre remontée du Canadien en troisième. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. Les gars se sont levés en troisième, notamment Cole Caulfield. Tu l'as dit, encore deux buts en fin de semaine. Il est rendu, je pense, à 12 ou 13 au mois de janvier. C'est le troisième meilleur buteur à travers la Ligue nationale. Il est derrière McDavid et McKinnon.
Ouais.
Je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment le mettre dans une catégorie de joueurs. Là, c'est sûr que nous, on est un peu biaisés, là, étant donné qu'il joue avec le Canadien. C'est notre équipe. Mais même à travers la Ligue nationale, je pense que Cole Caulfield fait partie des cinq meilleurs buteurs de la Ligue. Les statistiques le prouvent. Donc non, Caulfield, c'est vraiment rendu un des leaders du Canadien. Avec le premier trio, les Suzuki Hudson, qu'on connaît évidemment.
Oui, depuis la Coupe des Quatre Nations l'an passé, il est dans le top 5 des buteurs de la Ligue nationale avec McDavid, McKinnon, Morgan Geeky et Jason Robertson. Quand même assez comique de savoir que Geeky, Robertson et Caulfield ne participeront pas aux Jeux Olympiques. Pas assez bon. Dans les cinq meilleurs buteurs de la Ligue, mais pas assez bon.
Guérin a dit, si on avait juste à se fier aux statistiques, ben on n'aurait pas besoin d'un DG, on prendrait juste les meilleurs pointeurs sur la liste puis on ferait une équipe. Écoute, peut-être qu'il aurait dû faire ça. En tout cas, on va le savoir bientôt parce que les Olympiques, ça commence en fait vendredi. Le hockey, ça commence la semaine prochaine. Donc, on va avoir des réponses bientôt, savoir si Guérin a fait une grave erreur de laisser ces joueurs-là au Canada.
Ouais. Jacob Debèche devant le filet ce soir pour un quatrième départ consécutif. On va faire un débat à un moment donné, toi et Max Larouche, Montembeau, Debèche. Mais là, c'est la décision qu'on devait prendre, Alex, avec la performance de Debèche. 36 arrêts samedi.
Ben, ça a été la raison, selon moi, pourquoi le Canadien a réussi à se maintenir dans ce match-là. Il a fait des gros arrêts. C'est sûr que c'est un quatrième départ de suite, mais Saint-Louis l'a dit plus tôt un matin dans son point de presse. La pause olympique arrive, il va avoir du repos. Donc, c'est un peu pour ça qu'on lui a donné cette charge de travail-là. Puis c'est sûr qu'avec la performance de samedi, c'est difficile d'avoir des arguments pour le rencontrer dans le bureau et faire « Hey, on va mettre Samuel à ta place ». Selon moi, c'était la chose à faire. On va le mettre contre le Wild. À la limite, Montembeau pourra jouer peut-être contre Winnipeg mercredi. Winnipeg, on sait que ça va pas très bien, donc c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu plus prenable pour Montembeau, question de se remettre en forme. Mais selon moi, oui, ça devait être Debèche devant le filet. Au final, hockey, c'est une game de performance. Il livre la marchandise, il donne les victoires, donc on continue avec lui. C'est la décision logique.
Alex, parlant de gardien de but, on a vécu un événement particulier dans un match à l'extérieur hier.
Swayman is hot. Vasilevsky's coming out across center ice. Swayman and Vasilevsky may go. Swayman tells Vasilevsky, take your mask off, and he obliges. This is crazy.
Pascal, ça se passe aux 5 ans d'habitude des batailles de gardiens. Là, Sergei Bobrovsky s'était battu avec le gardien de but des Sharks de San Jose il y a deux semaines. Et là, dans un match extérieur au stade des Bucks de Tampa Bay, bondé de partisans du Lightning, Andrei Vasilevskiy, alors que son équipe perdait 5-2, a dit « Je traverse la glace, m'en va me battre avec le gardien des Bruins, Jeremy Swayman, qui est en train de frapper sur un de mes coéquipiers. » Résultat, la foule s'est enflammée, puis le Lightning a fait une remontée et gagné 6-5 en fusillade.
Ah, ben ça a été l'élément déclencheur pour le Lightning. Tu l'as dit, on avait un gros déficit à remonter. Ça semblait rallumer un peu tout le monde. Les joueurs, évidemment, quand tu vois ton goaler littéralement aller se battre pour ton équipe, t'as pas le choix d'être primé. Mais tu sais, les combats de goaler, on s'entend, c'est pas chic. Hein? C'est pas la meilleure technique qu'on a vue. Mais c'est
ben, ils ont 23 gros plastron, là.
Ben, c'est ça. On sent que niveau mobilité, on est assez limité. Mais non, c'est toujours très plaisant. Évidemment, toute la foule se lève, ça met de l'ambiance. Puis c'est ça qui a donné, au final, une chance au Lightning de remonter. Finalement, ils ont réussi même à gagner. Et tu l'as dit aussi, deux en très peu de temps, c'est assez rare. Selon moi, il y a des coachs qui vont dire à leur goaler, là, non, imite-les pas, là, on veut en santé. Là. Debèche, là, on le sait, des fois, c'est un émotif. Là. Debèche reste
c'est
en
vrai. Finale,
là, on veut pas voir de combat ce soir. Là. On te voit en pleine santé.
Un combat de Debèche-Wallstead ce soir au Minnesota. Alex, on compte là en 20 secondes. Les Jeux olympiques commencent ce vendredi. Je t'ai lancé une invitation, t'as accepté. On en parle à nos auditeurs. À compter de vendredi et à chaque jour, on va te parler pour se faire un bon résumé des Jeux olympiques parce que le Canada pourrait dépasser son nombre de médailles dans l'histoire.
Oui, effectivement. D'ailleurs, je vais faire des bulletins nouvelles des Jeux olympiques sur les ondes de boulevard, sur toutes nos stations. Et d'ailleurs, on fait ça vite, là, mais aujourd'hui, la presse canadienne a fait ses prédictions. Selon eux, ils nous prédisent 26 médailles. Et lors des deux derniers Jeux olympiques, ils ont exactement prédit le nombre de médailles que le Canada allait remporter. Donc, il faut dire qu'à date, ça semble fiable. Donc, ils nous disent 26. Évidemment, on s'en souhaite plus, mais ce serait déjà une très bonne récolte pour le Canada. On va suivre ça avec attention, puis ça va me faire plaisir de venir vous en parler.
Alex Laramée, toujours un bonheur de te parler. On se parle vendredi, 12h35, parce qu'on va avoir Super Bowl et Jeux olympiques au menu.
Oh, on a du stock à jaser vendredi, ça c'est
yes!
Ça.
Salut Alex, passe une belle semaine. Alex Laramée, journaliste au 99.5 Montréal, que vous pouvez entendre également dans des chroniques sportives ici à On en jase, et il fait également les sports pour le retour. Mathias Turcotte sera là à 15h dans le retour de Gravel pour venir parler de la conférence sur les infrastructures. Paul Lévesque, spécialiste en comportement humain, sera là, et Francis Gosselin aux alentours de 17h, docteur en économie. Pourquoi taxer encore la nourriture? Pascal Sévis, je te souhaite une bonne journée. Prends soin de ton rhume.
Oui, on revient nous en forme demain. L'entendait un petit peu, hein? Ouais. C'était ça mon tour, faut croire.
C'est ça. On revient nous en forme demain. L'émission Gravel dans le retour, je suis à l'instant même. Bye bye, guys. Bon après-midi.